Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Bon, le podcast de la semaine dernière, on va pas se mentir, on concluait presque sur ce jeu, c'était finalement une thématique du désespoir. Bon, vous n'avez pas eu votre podcast foire d'empoigne de début de saison, le voici.
Non mais en fait peut-être que tout le monde est d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Ouais,
tout le monde est d'accord, c'est un jeu pourri. Ouais.
Oui, on est tous d'accord en fait pour être pas d'accord.
Ça dépend.
Alors attendez. Il s'agit tout d'abord d'un podcast sur un jeu qui s'appelle For the Queen, qui nous a été ramené ici par Vivien Féasson. Vivien, bonjour.
Et Globo.
Pour la reine.
Et Globo. Bonjour.
Vivien Féasson, bonjour.
Hello.
Nous sommes également avec Xavier Globo.
Attends. Vivien Féasson.
Hello.
Vivien Fison.
Nous sommes également avec Xavier Globo.
Oui, bonsoir.
Nous sommes avec Emmanuel Frey.
Hello.
Nous sommes avec Justine Broussaille.
Bonsoir.
Nous sommes avec Jérôme S. de Poitiers.
Oui, bonjour. Bah après, j'ai dit que le jeu était merdique, mais en fait, j'en sais rien, c'est à nous de voir là maintenant.
Mais tout à fait, on va en débattre. Nous sommes également avec Adrien Cahuzac pour ce débat incroyable. T'as pas le droit de faire ça. Ça n'a absolument aucun sens au micro. Nous sommes également avec Natacha Morel.
Oui, salut.
Et un public fort nombreux qui se manifestera peut-être. Des gens incroyables qui sont dans ce public. Nous les présenterons peut-être plus tard. Allez, qui veut se lancer dans les hostilités? D'abord, qu'est-ce que c'est que Pour la Reine?
C'est un jeu de nul.
D'abord, je t'ai vu, Vivien, je t'ai vu arriver avec un ensemble de petits papiers que tu t'es empressé de glisser derrière l'un de mes decks de Magic. Donc tu avais besoin de...
C'est pas vrai, c'était des espèces de cartes de rebut que tu m'as refilé.
Il fallait vraiment que tu dises ça.
Écoute. j'ai glissé, on a glissé chaque papier un à un dans les pochettes, crois-moi qu'on s'en souvient.
Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Est-ce que tu peux nous présenter?
Écoute, je compte sur Xavier pour m'aider un petit peu, parce que donc, c'est un jeu d'Alex Roberts qui a un peu fait parler d'elle pour l'autrice et de lui pour le jeu, c'est bien ça, parce que c'est un jeu qui se veut, on va dire, c'est un jeu de rôle qui se joue avec des cartes uniquement, des cartes qui posent des questions, et le jeu est un peu connu justement parce qu'il a essaimé de nombreux hacks en fait.
D'accord, ouais.
Donc For the machin en général, si je me trompe pas.
For the
beer. Je sais pas, t'as un exemple, Globo?
Non, parce que j'ai pas du tout. Enfin, moi, je comprends que le jeu soit facilement hackable. Et moi, je. Enfin, voilà.
For the science.
Facilement hackable?
Oui, facilement hackable.
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 Hackable. Ah oui, joli. Joli. Joli.
Mais j'ai pas suivi l'affaire, quoi. Parce que moi, le jeu tel qu'il est déjà, il me convient bien. Et je pense que c'est juste une question de se mettre d'accord avec ses potes à quoi on veut jouer pour le hacker. Mais c'est facile
juste
de le hacker.
Pour tous ceux qui ont joué à ce jeu, je vous propose d'imaginer à un instant dans votre tête de transformer le mode du jeu pour la reine à pour Macron. Et là, vous comprendrez tout de suite toute la saveur qu'on peut tirer. On n'a pas besoin de hacker, on remplace tous les pour la reine par pour Macron.
Mais ce jeu-là, j'ai pas envie d'y jouer en fait.
c'est ça quoi.
Alors en gros, pour résumer, donc les règles sont très simples et se lisent normalement juste avant de jouer en 19 cartes, voilà, très rapidement. Mais le principe de base, c'est tout le monde appartient à l'escorte d'une reine. Et à la fin de la partie, il va y avoir la question, la reine est attaquée, la défendez-vous?
D'accord, okay.
Tout le reste du jeu, c'est des cartes que vous tirez et qui vous posent des questions sur votre relation avec la reine en général, des fois pas, et qui vont dire des choses comme la reine voit en vous quelque chose que les autres ne voient pas, qu'est-ce que c'est? Et donc la personne va décrire.
Ouais, c'est très souvent cependant des choses finalement négatives, c'est-à-dire que le jeu démarre, on vous dit vous aimez tous la reine, vous faites partie de son escorte, et en fait pendant tout le jeu en répondant aux questions, tu vas devoir dire je l'aime, mais en fait c'est une grosse fille pas très bien, et pas très très sympa. Et pendant tout le jeu, tu vas être amené à dire je dois l'aimer, mais elle a fait ça. Et à la fin, quand tu dois dire si tu vas la défendre ou pas, tu vas te poser la question.
Alors concrètement, nous, ça a presque
Emmanuel.
Plus viré. On était tous des enculés et on s'est tous tirés dans les pattes et on s'est beaucoup... Nous, ça a été plus, je pense, dirigé contre les uns et les autres qu'au contre la reine.
En fait, pour noter, on a fait deux parties différentes avec certains jouaient aux deux, certains qu'à une, etc.
D'accord. Et
sur la deuxième...
Combien de temps les parties déjà, à peu près?
30 minutes à chaque fois.
Ouais, 30 minutes à chaque fois. À peu près, on a mis la carte au milieu du paquet pour faire des parties.
C'est
courte et ça a à peu près duré ça.
Parce que c'est la carte, est-ce que vous allez sauver la reine?
Voilà, c'est ça, la carte finale, tu la mets à peu près où tu veux dans le deck en fonction de la durée de la partie que tu veux faire.
D'accord.
Et donc pour notre partie, je tiens quand même à signaler que.
Alors il y avait qui dans notre partie, juste pour qu'on puisse voir un peu.
Les trois quarts des gens ici.
D'accord.
On était sacrément nombreux à la deuxième.
Xavier, Donc vous êtes parti, d'accord.
Donc la plupart des gens ont joué les deux, c'est ça?
Non. Il y a Natacha et Faye qui n'ont pas dû jouer les deux, je crois.
Moi non plus, j'ai joué que la deuxième.
Là, il y a la moitié jouée. Ok.
Alex dans le public.
Mais j'étais présente en fait sur la deuxième partie et je participais quand même à la foire d'empoigne sans prendre deux cartes en fait. Je faisais comme si je faisais partie de la cour. Alors qu'à la première partie, on n'était que 5 et donc on faisait une garde plus rapprochée, c'était entre guillemets plus sérieux.
Ouais, donc ce que je voulais faire remarquer, c'est que sur la deuxième partie, j'ai l'impression qu'on a quand même tous pas mal oublié le fait qu'on aimait la reine. Ça, moi personnellement,
je l'aimais la reine. Moi, je l'ai mis complètement de côté.
Alors,
fourré à l'amour, si mes souvenirs sont bons.
Moi, j'aimerais mettre les pieds dans le plat, ça vous dérange pas?
Je peux répondre à ce truc-là? C'est parce que je suis en train de regarder un petit peu les cartes qui sortent et je pense que nous, on est beaucoup tombés aussi sur le bout de paquet qu'on a fait, sur des trucs du genre qu'est-ce qui vous différencie des autres? Et ça nous orientait beaucoup vers les autres et beaucoup moins vers la reine, je pense. Il y a eu un petit peu. J'ai trouvé, moi, que les questions étaient super redondantes. Là, en regardant, j'ai l'impression qu'elles ne le sont peut-être pas tant que ça, finalement. Donc, c'est peut-être aussi un biais lié au fait qu'on n'ait pas passé tout le paquet.
Je peux juste dire un truc pour la présentation globale du vraiment situer le jeu avant d'attaquer le truc. En tout cas, moi, comme je l'ai reçu, il y a des personnes qui le défendent assez, avec beaucoup d'énergie, comme une espèce de grosse découverte, on va dire, un objet important en termes
de ces dernières années. C'est un jeu récent.
Très récent. C'est quoi? Il est sorti il y a 2 mois, quoi. Okay. À l'heure où nous parlons.
Il a eu un crowdfunding, non?
Je sais pas du tout. Je sais qu'il a pas mal couru avant même d'apparaître physiquement. En fait, il était disponible genre sur Roll20 ou un truc comme ça, ce qui fait que les gens y ont joué avant même que l'objet lui-même sorte.
C'est trop tôt pour parler du site internet français ou...
Ouais, parce qu'il n'est pas en français en fait. Là, on a joué avec une version bricolée et normalement, le jeu n'est qu'en anglais à l'heure où on parle en tout cas.
D'accord.
C'est ça.
On a un pote qui l'a traduit et une pote qui a fait une mise en page et du coup, on s'est imprimé les petites cartes en français, quoi.
D'accord, ok.
Et donc, en tout cas, comme je l'ai reçu, moi, c'est que c'était clairement l'idée, enfin, ce que les gens présentaient, c'était le côté. C'est un jeu qui permet à tout le monde de faire un peu de jeu de rôle en mode un petit peu apéro, en peu de temps. Ça décoince pas mal les gens qui, justement, envisagent le jeu de rôle comme un truc compliqué, avec création de personnages, etc. Là, en gros, l'idée, c'est vraiment, vous lisez les règles au début de la partie, et puis le personnage se crée au fur et à mesure des questions. Et il n'y a pas du tout de question de « alors tu vas jouer qui ?» etc. Au début, tu prends une carte et tu réponds. Voilà, et en gros, c'est à peu près, je crois, j'essaie de voir si j'ai autre chose à ajouter, mais je crois que c'est à peu près ça. C'est exactement, en tout cas, comme ça que ça a été.
Pour moi, c'est un Baron de Munchausen en plus moderne, mais avec des défauts, du coup. Parce que le Baron de Munchausen, c'était le dernier podcast de la saison, donc c'est un jeu où on parle les uns après les autres. Mais tu bois et t'es là pour te marrer et tu t'en fous. Là, il y a quand même des moments où on se fait chier, quoi.
Moi, j'ai bu, ça s'est très bien passé.
Justement, c'est pour ça que je parle du Baron Munchausen, parce que la première partie que j'ai faite, où on était 5, il y avait des gros moments de flottement, mais il y avait des trucs intéressants, j'y reviendrai après. Alors que la partie où tout le monde était picolé autour de la table était beaucoup plus drôle.
Tu parles de Force the Queen, là. La première partie de Force the Queen était bien, la deuxième partie était mieux.
La première partie à 5 y avait des moments où vraiment tu t'ennuyais, en fait. D'accord. Du coup, t'étais un peu...
Alors que la deuxième avec tout le monde était mieux.
Ouais, largement, je pense qu'il faut être nombreux pour y jouer.
Parce que comme tu parlais du Baron Munchausen avant, on avait l'impression que tu parlais du Baron.
Moi, je suis pas si sûr que ça, du concept d'être nombreux. Mais d'abord, les pieds dans le plat que j'ai envie de mettre, c'est j'ai l'impression d'avoir joué un mauvais story game. Attends, j'en ai un en particulier en tête, merde.
Il était une fois.
Il était une fois. J'ai l'impression d'avoir joué un mauvais Il était une fois. C'est-à-dire qu'en gros, les éléments qui lancent les narrations sont ultra détaillés. Il y a... ouais, il y a rien, quoi. Enfin, je sais pas. Mais quoi?
Tu veux dire pas détaillé? Tu dis il y a rien et en même temps tu dis c'est ultra détaillé.
En fait, comparé à Il était une fois, c'est très détaillé, c'est très riche, mais en fait du coup c'est trop contraignant, en fait. Enfin, c'est à la fois trop contraignant et pas... enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça, c'était super bancal, en fait.
Est-ce que quelqu'un... Bruce, allez, vas-y, je t'en prie.
Ouais. En fait, j'ai l'impression que le jeu repose sur une seule technique, et c'est ça qui est à la fois sa pauvreté. Et on va dire, mais il a l'avantage de pousser à fond cette technique-là, parce que c'est la technique de la question orientée. C'est-à-dire, en fait, sur les cartes, tu n'as que des questions orientées.
Et Broussa, est-ce que tu pourrais nous lire une carte qu'on comprenne? Parce que là, à ce stade du podcast, on ne comprend rien.
Qu'avez-vous fait pour décevoir la reine lors de ce périple? D'accord. Donc, on est obligé de répondre à la question, et toutes les questions, en fait, toutes les questions sont des questions orientées et obligent à avoir la même attitude, c'est-à-dire à justifier par rapport à la question, ou à prendre la défense de la reine ou quoi que ce soit. D'accord. Alors, c'est vrai que comme c'est toujours des questions orientées, ça crée de la narration, ça oblige à prendre parti, ça oblige à imaginer des choses. Le défaut, je dirais, selon moi, c'est un tout petit jeu, hein, je pense. Mais le défaut, selon moi, c'est que ça oblige à parler de soi et non pas à parler de la reine. Donc, ce qui est très marrant, c'est qu'on est là pour la reine, mais j'ai l'impression que c'est un peu la grande absente, parce qu'en fait, elle transparaît à travers ce qu'on pense d'elle, mais on parle surtout de soi et très peu d'elle, en fait.
Alors, mais ça pourrait être un truc très élégant, en fait. Hein. Ça pourrait être une manière très élégante de décrire la reine, sauf qu'en pratique, dans les deux parties, la reine, elle était... Elle était creuse, quoi. Enfin, notre première partie, c'était quelqu'un d'immobile, presque tétraplégique, en fait. Et dans la deuxième partie, c'était juste une nana qui bouffait beaucoup. Mais à part ça...
J'ai envie de dire, dans les deux cas, c'est moi qui ai défini, en
fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais dans les deux cas, c'était pas très intéressant. Enfin. Et comparé à Il était une fois, parce que pour moi, c'est juste un mauvais Il était une fois, l'enjeu en tant que... j'ai la parole, mon enjeu de joueur, c'est quoi? C'est dire un truc pour pas que les joueurs en face se fassent trop chier. C'est tout. Parce qu'en fait, dans Il était une fois, il y a des interactions qui sont, faut que je fasse attention aux mots que je vais dire, parce qu'on peut me piquer la parole, faut que je case mes mots à moi. Donc il y a une réflexion de joueur, une dynamique qui est vachement plus intéressante. Là, c'est typiquement une carte, j'en prends une au pif, hein, on va le faire en direct. Qu'est-ce qui témoigne de la gentillesse de la reine? Ce matin, elle m'a fait un bisou. Suivant, voilà. J'ai fait mon tour, et comme ça, on peut aller jusqu'au moment où la reine va se faire attaquer, est-ce qu'on la défend ou pas.
Alors, ce que tu oublies, c'est que chaque participant à la table peut te poser des questions en retour et enrichir ta réponse. Quoi.
Ouais, et je peux dire, je m'en fous, en fait.
Oui, non, mais je veux dire, tous les jeux, tu peux choisir de ne pas y jouer, en fait.
Oui,
et ou d'y jouer avec mauvaise foi.
En fait,
et
bienveillance.
Voilà.
Mais en fait, ce jeu n'a rien qui me lance dans la fiction, si tu veux. Enfin, je suis rien, il n'y a pas d'univers, il n'y a rien. Enfin, pourquoi au début enfin,
mais justement, en fait. Alors, attends, Alex voulait prendre la parole, le public. Alex.
Oui. Mais je crois que c'est ça, en fait, l'intérêt, c'est de créer l'histoire ensemble, en fait. Il n'y a pas plus que ça. Par contre, si tu n'adhères pas à cet objectif-là, effectivement, le jeu est creux. Et moi, par contre, je rebondis sur ce que tu disais. Je vais parler pour que mes camarades ne se fassent pas chier. Non, moi j'aurais plus besoin. Je vais parler pour leur vendre du rêve, pour les faire rêver. Tu y arrives plus ou moins. Et moi j'ai eu un truc, je sais plus qui, un membre de la table, m'a créé un effet waouh. Et j'avais, moi, dans les systèmes que j'ai fait, via le système de Rose Popée, j'ai découvert la récompense et j'avais envie de dire comment je fais pour lui dire j'ai aimé ce que tu as fait et j'ai envie que tu continues.
Avec une question, par exemple.
Et je fais comment si moi je sèche? En fait, si tu veux, la question peut venir sur quelque chose qui me paraît peut-être plus creux de quelqu'un ou qui a du vide, mais quelque chose qui se suffit à soi-même. Bah, j'ai pas envie de poser de questions, j'ai juste envie de dire merci.
Bah, tu peux juste lui dire merci. Fais un petit pouce levé, y a pas de souci.
Et ça,
cœur avec les doigts, nous dit Valentin.
Ça me renvoie à un deuxième défaut du jeu, c'est que moi je suis ultra à l'aise avec ce jeu. Tu me donnes un thème, tu me dis improvise ça, y a pas de problème. Mais je suis désolé, c'est pas le cas de tout le monde, c'est une pression énorme et je comprends tout à fait. Et j'ai d'autant plus pas envie de défendre ce jeu. Oui, moi je peux jouer tout seul à ce jeu, mais j'ai pas besoin de ce jeu pour jouer à ce jeu si tu veux. Enfin, je sais pas, c'est...
Alors ça va être le paradoxe de... Je suis complètement d'accord, ça met beaucoup de pression, mais moi j'ai envie de le défendre.
Natacha.
Donc oui, effectivement, ça met beaucoup de pression sur ce que tu disais, Alex, ça, sur avoir envie de créer l'effet waouh. Donc du coup, tu cherches qu'est-ce qui est cool à créer, qu'est-ce qui est sympa à décrire, etc. Donc là, c'est un des défauts. Mais après, moi, j'ai passé un bon moment, donc je trouve que justement, c'est...
T'as fait la table à 5 ou la table à plein ?
La table à 5.
La table à 5.
Et...
La table à 4 aussi ? La table tout à
l'heure ? Non, tout à l'heure, j'étais ailleurs.
C'est intéressant ça.
Et je pense que j'aurais moins bien vécu en plus de votre table là-bas.
Parce qu'il y avait plus de gens, donc plus de pression potentiellement.
Non, parce que moi c'est le genre de jeu où j'ai envie de jouer premier degré et pour moi c'est pas un jeu à boire.
Ah, d'accord. Et c'est Emmanuel, Alex, je vais réagir.
Ouais, j'ai juste une petite remarque pour avoir suivi le sujet de loin. Je me demande si c'est pas un jeu en performance, qui se jouerait plutôt en performance où on a envie de créer quelque chose de chiader ou qui voilà qui vient du rêve. On n'est pas là pour. C'est pas un jeu forcément détente finalement. Effectivement, moi je. À chaque fois, c'était mon tour, j'ai senti une certaine pression, et c'est parce que Adrien, finalement, tu l'as souligné que j'en prends au jeu maintenant conscience, et j'étais pas à l'aise, je me disais, ouais, les autres sont meilleurs que moi, comment je vais me mettre au niveau. Donc, ouais, c'est, finalement, c'est un jeu qui était pas fun pour moi. Par contre, il y a cette espèce de défi de ouais, on va plus loin, plus haut, avec même certaines
donc,
fois,
ton
juste
exigence,
les questions
c'est
sont...
ta résistance, donc ouais. Bien jeu en performance, effectivement. Alors, Manu, Jérôme. Manu, je crois d'abord. Manu, Jérôme, puis Adrien. Manu.
Ouais, moi, il y a un truc qui m'a un peu fait tâtonner au début. C'est qu'en fait, donc Natacha dit le jouer au premier degré. J'ai mis longtemps à me positionner pour savoir comment il devait être joué. En fait, toutes les cartes peuvent orienter sur plein de trucs. Alors forcément, comme on est des gros grades rôlistes, on est parti sur un truc à un moment où on s'est dit ça peut devenir très cru. On peut parler cul tout le temps. Ça peut être une orientation. Ça aurait pu être très drôle. Ça aurait pu être très sympa. On est parti beaucoup sur ce côté complot entre les uns et les autres. Ouais. On aurait pu partir sur le côté politique où effectivement là, peut-être que la si on avait réussi à mieux définir la personnalité de la reine et il y a des cartes qui le permettent, on aurait pu construire peut-être un petit peu plus ce côté-là. Le truc qui m'a manqué, comme en plus on était nombreux, on n'a pas fait beaucoup de tours, mais le truc qui m'a manqué, c'était une orientation de départ pour qu'on puisse partir plus rapidement dedans. Une espèce de contrat.
Bah, une espèce d'univers, quoi. En fait.
Oui, oui, ou un choix de groupe qui nous permette de dire bon, bah, on a envie de la faire déconne, on a envie de la faire sérieux, ou parce qu'on a un petit peu tâtonné au début, et en fait, ça met du temps à se. J'ai l'impression que j'ai agacé Natacha. Hein.
Alors, juste, Jérôme voulait intervenir, et ensuite Flavie, ou Adrien. Ouais, bah, Jérôme, Adrien, Flavie.
Moi, j'ai plein de trucs à dire là, Jérôme. Tout de suite. Notamment sur ce que tu as dit, Alex, sur le jeu en performance. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est sur un jeu qui favorise énormément le type de jeu dont on a parlé, enfin dont vous avez parlé. Moi, je n'étais pas là la saison dernière.
Si, tu étais sur le canapé à côté. Bon, pas
oui,
à
mais
côté.
Bon, mais bon, l'année dernière, à la cellule, il y a eu des podcasts sur le jeu en performance. Et effectivement, je pense que c'est un genre de jeu qui favorise ça dans le sens où, sans aller théoriser de ouf sur le jeu en performance, pour le résumer comme ça en deux éléments, moi qui me semble à peu près centraux, c'est le fait de s'approprier le jeu en tant que joueuse autour de la table et de servir le jeu aux autres. De pas attendre, voilà. De servir aux autres et de s'adapter et de surtout s'approprier le truc. Il me semble que c'est à peu près deux axes sur lesquels le jeu en performance, on peut dire que, sans trop se tromper, que ça, c'est ça. Et donc là, le jeu favorise ce genre de choses. Ça faisait longtemps qu'on disait, et où ils sont les jeux à performance ?
En performance, bah, ouais.
Là, typiquement, on en a un. Là où je vais développer, c'est que c'est comme les Apocalypse World. Apocalypse World, il était, excusez-moi, il y a plein de gens qui l'ont adoré, mais il était chiant. Il était écrit avec le cul, et y a plein de gens qui ont appris à maîtriser les systèmes Apocalypse avec d'autres jeux qui n'ont pas été écrits par Baker, notamment Apocalypse World, Dungeon World et ou Monster Hearts. Bref, ça, ce que je veux dire, c'est que le jeu est une excellente base pour qui voudrait créer un système similaire. Mais dans un autre style, en fait, avec des questions orientées dans un autre genre. Et justement, ça existe. Et notamment en français, il y a un site donc, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, voilà, donc sans les www, hein, juste HTTP, S, tout ça, mais juste FTQ, comme For the Queen, point c'est pas du JDR.fr, donc c'est hébergé par le site c'est pas du JDR.
D'accord.
Et ouais. Donc, il y a un site internet qui permet de jouer au jeu en ligne et à ses différents hacks. Il y a apparemment au moins 5 hacks minimum français disponibles. Et en plus, le site apparemment permet de rentrer ses propres hacks. D'accord. Si Valentin, c'est bon
Valentin, parce que là,
confirme-moi, oui.
Ouais, c'est ça. En fait, il y a une application qui a été développée par Mathieu B. Et d'autres, je ne sais pas qui. Big dédicace d'ailleurs à Mathieu. En fait, on peut construire nos propres hacks pour la reine. Et donc, le jeu lui-même pour la reine n'est pas disponible en français. Mais tous ces hacks le sont. Donc, il y a par exemple pour le leader, je crois. Donc, le leader, notre bien-aimé leader, je crois que c'est ça le nom du hack.
Bah, c'est Macron, non
Alors, il y a une petite, je crois, faucille et marteau sur la pochette du jeu. Il y a aussi, aussi un hack qui m'intéresse beaucoup. C'est un hack de Macalice, c'est For the Band, où en fait, on joue tous des membres d'un groupe de musique. Et en fait, il n'y a pas un individu qui est la reine. Mais en fait, on se pose des questions sur les relations qu'on a les uns par rapport aux autres dans le groupe, sur notre rapport au groupe comme une entité. Mmh. Et bon, bref, moi, ça m'intéresse aussi de pas avoir cette reine qui est.
Ouais, alors tu sais,
Adrien.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est sans doute plus intéressant ça.
Alors, Alex a dit en dehors des micros.
Attends, excuse-moi. Donc Alex disait, c'est sans doute plus intéressant. Je sais pas pour quel était mon argument, mais je suis d'accord sur ça. C'est que, et je repensais à ce que disait Fly sur le Baron Munchausen, c'est qu'en fait, ici, on joue pas du tout en convergence avec nos personnages. Alors, on est censé être des gardes qui escortent cette reine, machin. Et en fait, ça passe pas du tout. Par contre, le Baron Munchausen, où on est censé faire la fête avec des potes, et qu'en vrai, on fait la fête avec des potes, ça passe. Donc, en fait, ce genre de jeu d'ambiance, le jouer sérieux, c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Et donc, jouer un groupe de musique qui fait la teuf, qui explique pourquoi le groupe de musique fonctionne, c'est cohérent, en fait, avec la proposition.
Alors, juste un petit truc, puis après, je vous laisse, c'est que...
Non, tu nous laisses pas, tu restes ici.
Ah, ok, d'accord.
Ça suffit de se parler, parce que j'ai entendu, à la fin de la saison dernière, ces gens qui s'en vont fumer des clubs et qui font que la fin du podcast, c'est plus que deux personnes qui parlent en duel, là. Ça suffit.
Bon, je reste dans le coin,
mais en tout cas... d'empoigne, on reste.
Bon, mon message était très simple, c'est en fait, moi, pour la reine, je trouve ça intéressant, mais un des gros points, c'est qu'il y a des manières de le hacker qui sont pas juste de reskinner le jeu, en fait. Il y a des manières de transformer, de reprendre ce principe pour essayer de l'améliorer. Et il y a une plateforme qui existe avec déjà plein de jeux, déjà plein d'initiatives. Je trouve que c'est un jeu qui se hack bien. Il y a une plateforme pour le faire, il y a une plateforme pour réfléchir en termes de game design. Allez-y, furetez, c'est vraiment super. Enfin, en tout cas, je trouve ça génial.
Alex Piflavi, rapidement.
Ouais, je vais reprendre parce que finalement, avec Adrien, on n'allait pas au même endroit. Moi, ce qui vient de me marquer, c'est qu'on remplace la reine par The Band. Mais en fait, je ne retiens pas un groupe de musique, je retiens un groupe. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas là à dire pourquoi on aime la reine, pourquoi elle nous aime plus que les autres, et donc on n'est pas en opposition avec les autres joueurs. On est, on forme avec les autres joueurs. Non,
c'est n'importe quoi.
Les membres du groupe.
Ils sont en train de se barrer par la fenêtre, quoi. Et Valentin, mais. Quel punk. Bon, en même temps, c'est pour ça qu'on l'invite. Allez, Alex,
Et du coup, voilà, moi, je pense que Force Awaken serait plus intéressant si finalement le fort s'adressait au groupe qu'on forme ensemble. Peu importe ce qu'il est, en fait. Et il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des jeux. Pourquoi on est ensemble, pourquoi ça marche et pourquoi des fois ça marche moins. Et je trouve que c'est plus vecteur d'interaction et d'un objectif.
Allez, Flavie, enfin.
Alors moi, je suis désolée, depuis que vous parlez, moi j'ai toute une fiche de notes.
C'est donc pour ça que je t'ai donné la parole après toutes les interventions des autres.
Redonne-moi ça, Vivien. Moi, je vais commencer par le truc que j'aime bien, c'est on part de quelqu'un qu'on aime officiellement pour aller vers pourquoi on le déteste. Sur le principe, c'est un truc que je trouve très cool. Mais pour moi, il y a un problème dès le début d'une partie, c'est que justement, va y avoir une tension... mais qui du coup ne se résout jamais. Est-ce qu'on va parler de son perso ou est-ce qu'on va parler du groupe? Pourquoi est-ce que pour moi il y a un souci? C'est parce que au début, quand on va lancer le jeu, on a posé ni qui faisait quoi dans le groupe, ni qui on était. Donc quand on va arriver face aux questions, en fait il faut qu'on se trouve à un truc direct, mais ça se trouve en plus ça va être redondant avec tous ceux qui sont autour. Moi j'aurais trouvé ça plus cool en fait qu'on détermine au début, tu fais quoi pour la reine, tu fais quoi par la reine, une posture de groupe quoi. Ou alors dans ce cas-là,
on a un socle commun quoi.
Voilà. Ou alors qu'on pose son perso. Parce que toi, tu disais que tu avais une difficulté à entrer dans l'univers Manu. Moi, je pense que c'est parce qu'au début, on pose ni le groupe ou pas son perso. Donc, du coup, on ne sait pas vers où on va. Donc, en gros, c'est le premier qui parle, qui pose le truc. De la même façon, on est censé choisir une reine qui pourrait, du coup, nous lancer vers un univers. Mais les dessins sont tellement what the fuck que nous, la première fois qu'on y a joué, en fait, c'était très compliqué. On n'a pas réussi à choisir de reine. Donc, pour moi, il y a déjà un problème au début. Ensuite, le fait qu'on prenne des cartes en fait les uns après les autres fait qu'on joue les uns à côté des autres et pas les uns avec les autres. Ça veut dire que, je vais nuancer ça après, mais sur le principe, on va pouvoir dire des trucs qui vont entrer en contradiction avec les autres. Du coup, si on n'y prend pas garde, en fait, peu importe ce qu'on va dire, en fait, ça n'aura pas d'importance, ce qui fait qu'on peut rapidement partir dans le n'importe quoi, ce qui fait que rapidement les blagues de cul peuvent arriver parce qu'on se fait chier. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on se met à poser des questions. Donc, on se met à poser des questions aux autres parce que du coup, on veut entrer en interaction. Mais ça reste quand même compliqué. On joue les uns à côté des autres et c'est difficile d'entrer en contact avec les autres. D'ailleurs, on s'interpelle beaucoup avec humour. Ça s'est vu énormément à la deuxième partie où on était très nombreux. Comme c'était très lent d'attendre son tour, du coup, il y avait énormément d'humour autour de la table et d'hors-jeu finalement.
Mais parce qu'on on s'ennuie, c'est pour ça que le système de pour la reine version apéro doit bien marcher, parce qu'en fait, du coup, on s'interpelle, les blagues de cul peuvent arriver vite, hein, puis ça c'est bien vu parce que peut y avoir. Puis voilà, on va essayer du coup de faire un petit peu de contact, et du coup, plus on est nombreux, je pense, plus ça peut tourner au jeu de rôle, parce qu'en fait. Tu attends trop longtemps.
Par non. défaut, c'en est pas un, quoi.
Oui, mais ouais. à la base, moi, je m'attendais, quand on m'a proposé ça, je m'attendais à jouer quelqu'un qui allait être dans le groupe avec la reine, et puis j'allais me détruire, me sacrifier pour elle. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai participé, on a essayé de faire ça, et mais ça fonctionne pas très bien.
Les questions, elles ont rien peu vers ça. Enfin, statistiquement, pour avoir.
Toi, sur la deuxième partie, sur la première partie, on a eu énormément de questions qu'orientaient là-dessus.
Rapidement, il y a deux points qu'a soulevé Flavie. Ouais. Le premier, on est censé aimer une reine, mais on ne sait pas pourquoi. J'ai vu que ça faisait réagir Adrien, que ça avait l'air de confirmer ses points au départ en disant, moi, ça manque de
ça
stuff.
Ça manque un socle. Voilà, typiquement, ce que disait Flavie, c'est qu'au début, tout le monde répond à la même question qui est, pourquoi vous aimez la reine ? Voilà. Et une fois qu'on a tous répondu à ça, on sait un peu, on se pose un petit peu dans l'histoire, tout ce qui on est, etc. Et après, on peut aller de l'avant. Voilà. C'est déjà...
sur ce point, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir déjà ? Vivien, Jérôme ?
Oui, mais faire un hack, c'est juste dire ce jeu est mauvais, quoi. Enfin...
Faire un hack, dit Valentin, en dehors de la barre.
En fait, il a quitté Saint-Malo.
Vivien, est-ce que tu as quelque chose sur... Okay.
Jérôme
n'a qu'une bière dans les mains, il n'a pas de micro, mais après je vais encore passer la parole à Bruce.
J'ai pas dit ce que j'avais pensé du jeu, parce que c'est vrai que je l'ai amené, mais.
Attends, juste sur ce point-là,
ça englobe ce point en fait, c'est juste l'idée que moi en fait je prends ce jeu comme un truc un peu. En fait, je le prends comme un truc détente. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'arrive, on me file une carte, je réponds à la question, et moi ça me pose aucun problème en fait de pas savoir qui est la reine à ce moment-là, de pas savoir ce que je fais. Je me laisse emporter vaguement, j'y mets pas un investissement. Je vais reconnaître, hein, j'y mets pas un investissement émotionnel immense. Je vais pas pleurer à la fin pour la reine et tout, mais j'ai fait deux parties que j'ai trouvé cool. La deuxième partie, j'ai peut-être trouvé un peu moins bien, juste parce que beaucoup de monde et que du coup on s'interrompait pas mal, on s'entendait plus. C'est pas un truc. Je suis peut-être un peu comme Natacha à ce niveau-là. Je suis pas hyper fan de ça. Mais voilà, le fait de découvrir un truc, tu vois, c'est voilà, pour moi le jeu, je le prends sans prétention à ce niveau-là et je découvre des choses.
Oh
et...
merde, j'ai perdu au jeu.
Et donc voilà, pour moi l'absence de socle, c'est pas un problème, l'absence d'ambiance, c'est pas un problème, c'est un truc que je considère qui va se créer pendant la partie, qui va évoluer, on va effectivement. Alors, les questions de cul, c'est pas parce qu'on se fait uniquement parce qu'on faisait chier, c'est aussi quand on dit vous faites plaisir à la reine d'une façon que personne d'autre ne peut faire. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, forcément, la première, le cerveau humain part tout de suite vers ça. Il n'y a pas que le fait qu'on s'ennuie, quoi. Et en tout cas, je me suis pas emmerdé globalement quand même pendant les réponses des autres, et le fait de pouvoir interagir, c'est aussi un petit peu un plaisir de creuser un peu ce que les autres font, quoi. Voilà.
Donc je rebondis, Natacha. Et je garde le micro. En fait parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas venus tous pour faire la même chose, et moi je suis complètement d'accord avec Vivien sur le fait que j'étais partie sur le fait que c'était un story game et pas un jeu de rôle. Et donc que j'allais passer on avait dit une demi-heure, hein, pas plus, sur un truc où on allait raconter des histoires, et donc voilà, moi j'avais pris comme Il était une fois, et je suis désolée, Il était une fois, je préfère y jouer sérieusement parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et je cherche vraiment l'effet waouh. Si je peux le trouver, c'est cool. Sinon, bon, je trouve un truc simple qui soit à peu près cohérent avec ce qui a été dit avant, et je trouverai une meilleure proposition à la prochaine question qui me sera posée. Mais c'est sûr que j'en attendais pas grand chose, donc j'ai pas été déçue et j'ai passé un bon moment.
Ouais, c'est sûr que quand on attend rien de quelque chose, on n'est jamais déçu.
Non, mais
sauf Douy, sauf
ce que je veux dire, c'est que j'attendais pas la même chose qu'une campagne de Blitzstage.
J'attendais rien, je suis quand même déçu.
Alors,
ça va clasher ce soir.
Alors,
Xavier.
Alors moi, ce jeu, il me parle parce qu'il rebondit avec une pratique que j'ai actuellement. Je ne suis pas auteur dans le sens où je ne compte pas sortir les jeux que je fais pour moi, mais je fais jouer en convention un jeu scénario que j'appelle l'Auberge du Sanglier Noir en l'honneur de l'œil noir. Et en fait, c'est mon seul pitch de départ, c'est-à-dire l'Auberge du Sanglier Noir. Et j'ai un deck de questions ouvertes comme ça, que je distribue à mes joueurs. Ils vont y répondre, après ils créeront leur personnage, et après on va jouer une scène dans l'Auberge du Sanglier Noir sur cette base-là. Donc, la manière dont joue For the Queen est complètement en relation avec ce que moi j'explore de mon côté, qui est un travail à la base de questions ouvertes à mes joueurs pour construire le contenu de la partie. Et donc moi, mais après je suis quelqu'un de particulier, j'ai pas l'immersion fragile.
Particulier.
Voilà. J'ai pas l'immersion fragile.
C'est pour ça qu'il
donc,
est là.
Moi, j'ai pas besoin d'un BG de. D'ailleurs, je le dis souvent dans les voix d'Altaride, le fluff c'est de la merde. J'ai pas besoin de 15 milliards de fluff avant, qu'on m'explique le contexte, etc. Moi, une question, ça me suffit pour le construire.
Attends, quand il y a une différence entre 15 milliards de fluff et rien posé du tout.
Donc c'était excessif exprès, Flavie. Hein.
Ouais, je sais, je te le dis.
Et du coup, ce jeu, il me permet aussi d'aider les gens et d'apprendre aux gens à poser des questions
ouvertes.
Oui,
mais toi, tu t'en sers pour poser l'univers.
Bien sûr.
Là, c'est le jeu en lui-même.
Mais je pense que c'est le propos du jeu d'avoir une construction collaborative de l'univers en répondant à ces questions.
Mais je pense que tu peux comprendre que du coup, il y a des gens qui ont du mal à entrer dedans.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Flavie. Je veux dire, c'est juste ma pratique et mon exploration du jeu en ce moment. Et donc, j'explique pourquoi ce jeu, il me convient à moi. Et ce que je trouve bien avec ce jeu, c'est qu'il aide et il apprend aux gens à poser ce type de questions. Parce que si tu veux pas te faire chier quand tu joues à For the Queen, il faut écouter la réponse de chacun pour essayer de trouver la meilleure question la plus tordue à lui renvoyer par rapport à ce qu'il a développé. Et si tu comprends pas ça, bah ouais, tu te fais chier.
Broussaille, puis Jérôme, puis Alex.
Ouais, moi, ce qui m'a intéressé dans ce jeu-là, c'est la dynamique de groupe. Parce que, est-ce qu'on joue pour soi ? On était une dizaine, donc c'est vrai que c'était difficile d'être attentif à toutes les propositions. Mais est-ce qu'on joue pour soi en essayant de trouver un truc cool ? Ou est-ce qu'on essaye de créer avec l'autre ou ce qu'a dit un autre une complicité pour pouvoir rebondir dessus ? Et c'était intéressant, je trouvais, sur le groupe d'une dizaine où on était, de voir ceux qui essayaient de construire un univers un peu en propre, alors je dirais pas égoïste, mais qui essayaient de construire quelque chose parce qu'ils ont besoin d'avoir un univers qui repose sur des bases solides, et ceux qui essayaient de trouver avec les autres des résonances, y compris... Alors, ça pouvait être des questions déconnes, c'est sûr. Les questions qu'on a sont des questions quand même qu'on peut prendre à double sens, donc qu'on peut orienter. Je pense qu'avec des questions plus neutres, on aurait eu quelque chose d'un peu moins sexe.
Adrien lui met deux cartes sur le nez, j'imagine
que
ça va
être bien. Je sais bien, c'est des questions... Il y en a qui ont un double sens, il y en a qui ont un sens évident. Après, je veux dire, on peut toujours revoir les questions. Qu'est-ce que je disais en plus ?
Juste parenthèse à propos des blagues de sexe. Il y a une différence pour moi entre répondre à une question qui t'invite à introduire cette thématique-là et introduire une blague en off parce que tu veux
alors,
lancer.
Voilà, pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, j'ai pas trouvé, en fait, j'ai pas trouvé qu'on a fait du hors-jeu pendant la seule partie que j'ai vue. J'ai pas trouvé qu'on a fait du hors-jeu. En fait, on était des courtisans à la cour de la reine et c'est vrai qu'on se renvoyait des piques. Alors, mais qu'on aurait pu, alors on n'est pas des courtisans, on n'a pas l'étiquette d'un courtisan ou quoi que ce soit, mais on aurait pu se renvoyer ces mêmes piques à la cour de la reine en se renvoyant des questions. Et pour moi, on était toujours dans le jeu parce que c'est clair qu'on n'avait pas de personnage créé dès le début, mais on s'en est créé finalement un en résonance avec les autres et on s'est approprié un rôle à chacun et on a... Alors, oui, c'est pas un jeu de rôle aussi construit que les autres. On a construit un personnage avec un meneur qui valide telle ou telle proposition. Mais on a construit des choses et on a construit des choses ensemble. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est la dynamique de groupe. Et c'est vrai que, ben, comme dans toutes les dynamiques de groupe, hein, bon anard, ben, soit on n'a pas envie de... soit on n'a pas envie de faire partie du groupe et on le dit aux autres en disant « Non, tes propositions, elles me font chier, j'en veux pas ». Ou alors, je prends cette proposition, mais pas celle-là. Il y a celui aussi qui va vouloir prendre toutes les propositions. Et puis celui qui va se dire, ah bah tiens, là, ça me donne cette question-là. Elle me donne un éclairage plus intéressant sur mon personnage ou quoi que ce soit. Donc, j'ai bien aimé tout ce qui s'est passé à 10. Alors, est-ce que ça peut se passer à 3 ? Est-ce que ça peut se passer à 4 ? Je ne sais pas.
Alors, attendez, il y a des tours de parole, là. Jérôme, d'abord. on va y arriver. Jérôme.
Alors, moi, effectivement, sur le cul supposé, les blagues de cul qui sont soi-disant hors game et tout, non, clairement, le jeu contient plein de sous-entendus. Et parce que, de base, le setting de base, parce que finalement, on parle d'un setting, là, on est sur la naissance d'un truc qui est comme le PBTA, comme les jeux de rôle Apocalypse, on est sur la naissance d'un genre de système qui va être décliné en plein de trucs.
Oui.
Donc, le côté sous-entendu permanent, blague de cul, est propre au cadre initial, on va dire, mais à mon avis, sera loin d'être généralisé partout. Ensuite,
ça, tu me le fais à chaque fois.
De quoi ?
Je monte les podcasts, à chaque fois tu fais des comme ça, et puis après tu me dis j'ai perdu ce que je voulais dire.
Je l'attends. Là j'ai pris des notes sur mon téléphone, donc.
D'accord. Là je suis au top.
Là je suis au top.
Onzième saison, il est frais.
Et on ferait. On ferait. Oh non, merde. Oh, c'est horrible. Non,
non,
non. Bon, pardon. Donc oui, mais tout ça pour dire que oui, le design de base, peut-être qu'il induit des trucs comme ça un peu foireux, mais c'est pas pour ça que si on hack le jeu.
Mais attends, on est là pour parler de ce jeu, pas pour parler de ses hacks. Enfin, sinon, je veux dire, on peut parler de tous les jeux qui n'existent pas encore.
Bien sûr qu'on peut parler des hacks, c'est aussi un des intérêts de ce jeu.
Exactement. Parce que justement, le fait que quand ce jeu n'est même pas encore sorti en France, il y a déjà un site français qui permet de se servir de ses hacks, c'est comme pour Apocalypse World. Sauf que là, on est en avance, Adrien. On sera pas en retard pour une fois. Et ça change tout. Et donc, tout ça pour dire, Monster Hearts changeait beaucoup de choses par rapport à Apocalypse World. Personne ne pensait qu'on pourrait jouer des problèmes d'adolescents avec Apocalypse World. Bon, je vais vite sur les autres trucs que je voulais dire.
Parce que après c'est Alex, après oui. Manu, après Adrien, après Flavie.
Ouais, mais du coup, est-ce que alors, je peux finir ?
C'est pour vous.
Ensuite, donc, c'est quand même un jeu qui a un avantage. Je sais plus qui l'a dit tout à l'heure. Je crois que c'est toi, Alex, ou je sais plus, qui a souligné que le jeu en plus permet quand même qu'on puisse jouer relativement solo. Le jeu ne va pas planter parce que quelqu'un arrête de suivre l'équipe ou ne va pas dans le minivan. Comme pour un fiasco, quoi. Et ça marche bien pour le coup. Il y a juste à bien s'entendre. Et je vois, viens, tu rigoles. Ah oui, je sais, avec plein d'œil, plein d'œil. Ok. Sinon, alors bon, il y a quand même un vrai truc à dire, c'est que c'est un jeu qui est un jeu apéro, ce qu'on appelle un party game, comme un Mario Party. Et que c'est une espèce de mode dans certains designs de jeux de rôle. Ou de story game et tout, si vous voulez vraiment faire la distinction, voilà, ça, moi, je m'en branle. Mais en tout cas, vraiment...
Il est génial.
C'est, je sais pas si vous voyez Mobile...
137 commentaires. Hein. Non, mais attendez, les gars. Non. Attendez, pourquoi...
En 370 de haine contre nous sur le groupe Idoine.
Non, s'il vous plaît.
Mais
5% de part de marché...
Les mois glissants et tout ça. Non, mais vraiment, Vincent Baker, ces derniers jeux, vous savez ce que c'est ? C'est des party games, des jeux qui sont étudiés sur le modèle des Mario Party. Et là, on est sur vraiment un Mobile Frame Zero Firebrand. C'est le même genre de thématique, mais encore plus renfermé, encore plus pourri. Et vraiment, parce que vraiment, il y a une thématique américaine en ce moment qui est dans la thématique et dans la dynamique de faire des jeux qui sont...
Je crois qu'Emmanuel comprend rien à ce que tu dis.
Oui, mais ça, Emmanuel, je m'en fous en fait.
Non, mais Emmanuel, elle a pas de smartphone, elle a pas de console, elle comprend rien à ce que tu dis.
C'est ce que tu veux dire.
En fait,
Emmanuel a été largué par la modernité.
Bah, une tradition très récente en plus, qui est, on va faire des jeux, comme un Mario Party, on va lancer des mini-jeux où tout le monde va jouer 30 secondes, 2 minutes à un jeu.
En fait, c'est le Candy Crush du jeu de rôle, ça.
Alors, et justement. Et... Alors, non, non, parce que. Si t'as déjà joué à un Mario Party, tu sais que c'est pas du Candy Crush. Par contre, il y a une super piste de game design qui ressort de toutes les discussions qu'il y a eu depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un Mario Party, ou dans ceux qui ont essayé de copier les Mario Party, il y en a eu des très mauvais parce que les joueurs sont tout le temps tout seuls. Et vous l'avez dit, ça, plusieurs fois autour de la table. Oui, mais dans les bons Mario Party, tout le monde joue ensemble. Ce qui fait que des questions dans un hack futur, si quelqu'un en fait un, je ne sais pas, mais des questions qui font interagir plusieurs joueurs,
pas,
plutôt qu'un seul avec l'arène ou quoi, à mon avis, c'est une bonne piste. Qu'est-ce que tu as pensé de tel autre joueur quand l'arène a fait ça ? Et d'un seul coup, ça donne des pistes pour faire...
Alex, d'abord. Non, ok. Alors Manu dirait. J'avais encore un point.
Juste, non. Il y en a d'autres pour parler longtemps. Non, franchement, c'est bon.
Du respect, s'il vous plaît. Ouais. Les deux du fond.
Mais je pense que, comme disait Globo, c'est un jeu qui permet d'apprendre à jouer à tout ça. Comme les jeux Apocalypse ont permis à plein de gens d'apprendre à se départir de certaines lenteurs et tout, et de s'accrocher à l'essentiel. Là, on est peut-être à quelque chose qui balbutie. Peut-être ce sera nul et personne s'en servira jamais. Mais à mon avis, utilisé intelligemment, on a potentiellement l'ouverture d'un... pas PBTA, comme...
Tu sais, on disait souvent, il y a des jeux qui deviennent des médias.
Alimentés par l'arène, quoi.
Regardez, le jeu de Gary Gygax, qui à la base devait être un wargame, finalement est devenu un média, le jeu de rôle. Qui sait, peut-être que là, on a en face un truc limite qui deviendra un média plus tard.
C'est pas nouveau.
Non, c'est pas.
C'est Il était une fois, c'est Oui Seigneur des Ténèbres, c'est la même chose. Enfin, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Non. Enfin, je suis désolé.
Mauvaise foi.
Je suis désolé. Alors, vous arrêtez
c'est ce
pas.
Qu'on appelle des story games.
Vous arrêtez pas de dire avec DEA que ça pourrait être bien. Enfin, mais.
Moi, il me convient tout à fait comme ça. J'ai pas de problème avec.
Tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que disait Broussaille sur.
C'est pas à toi de parler.
Pardon.
C'est à Manu
de
parler.
Oh putain, il m'a fallu 11 saisons pour apprendre à couper la parole à Adrien.
Bien, bravo.
Allez, ouais.
Non, en plus, c'est vraiment que sur un point de détail, mais quand t'as parlé d'utiliser intelligemment, on tire les cartes de règles dans l'ordre. Et la sixième, c'est nous pouvons choisir une carte reine comme inspiration, mais cela est facultatif. On a tous dit qu'on n'en avait rien à carrer. Sauf qu'il y a un moment, les enfants, et les cocos là. Si,
les cocos. Ouais,
excusez-moi, mais si on veut avoir un petit univers de poser, nos cartes, c'est pas seulement la gueule de la reine. Il y a un moment, t'as une reine démoniaque, t'as une reine africaine, t'as une reine asiatique, t'as une reine des elfes, t'as une reine victorienne, t'as une infante d'Espagne. Non, mais les images, alors. Excuse-moi, mais tu vois pas une infante d'Espagne ici ? Là, t'as pas la reine d'histoire. Enfin, c'est pas très visuel, je suis désolée pour les auditeurs, mais là, t'as une reine victorienne.
Alors, juste
attendez,
pour
je les montre au micro.
Merci, Adrien.
Juste pour les auditeurs, c'est que au dos des cartes, il y a donc des illustrations qui représentent diverses reines.
Non, c'est pas au dos des cartes.
Il y a un petit pool de cartes qui représentent les reines que tu peux choisir comme inspiration, mais cela est facultatif, c'est dit. Et en fait, il y a un moment où si tu choisis une reine victorienne, bah, tu vas jouer dans une Angleterre d'une certaine époque où c'est peut-être plus... non, pardon, c'est pas victorien. Enfin bref, reine d'Angleterre,
reine
machin. La reine des... Merci, je suis nulle en histoire. Non, mais... Oui, mais il y a un moment.
Arrêtez de parler sans vos micros.
Juste, voilà, il a dit tu fais une association parce que c'est une vieille reine, mais c'est une vieille reine, elle fait quand même reine d'Angleterre.
Alors moi, j'ai tout de suite dit, c'est la reine Elisabeth. L'actuelle. D'ailleurs, c'est pas historique, c'est l'actuelle.
Broussaille fait rue d'histoire.
T'as une reine de Blanche-Neige.
Oui, ce que tu disais sur les images, c'est qu'en fait, on peut projeter beaucoup de choses sur les images.
C'est-à-dire.
Si, en fait, on vous dit, tiens, il y a une reine victorienne, il n'y a pas marqué dessus reine victorienne. Donc, on peut l'associer à une reine victorienne, mais on peut créer aussi d'autres points de l'image pour en faire autre chose.
Ouais, sauf qu'il y a un moment où ce qui a marqué, c'est qu'on l'a choisi ensemble. Donc, si, au moment du choix, on commence à dire, ben moi, cette reine, elle m'évoque la chevalerie, c'est un univers qui me parle bien, j'ai envie de jouer là-dedans, les autres joueurs sont d'accord, on choisit une reine avec des choses, des points qui auront été identifiés, déjà on va vachement restreindre l'univers. Et ça veut dire que, quelque part, ce côté flou où tu te poses la question de est-ce qu'on va parler de cul, est-ce qu'on va parler de cul, est-ce qu'on va se tirer dans les pattes parce qu'on est plutôt dans un empire ou un royaume, où effectivement on sait historiquement, on a tous des vieilles bases
Manu,
volontairement foireuses.
Je voudrais juste apporter une précision pour
Alex.
Les auditeurs, c'est que donc, la partie qu'on a fait à une dizaine, une partie sur laquelle on est tous, la plupart en train de parler, on n'a pas fait cette étape-là.
Mais
on n'a pas choisi ensemble la carte. On a testé.
Il n'y a pas eu de négociation pour la reine.
Maison entre guillemets improvisée.
C'est
de...
ça que je suis en train
on
de dire.
Fait par exclusion.
Ouais, c'est
coup,
ça que je suis en train de dire.
Qu'en
c'est
fait...
qu'il y a un moment où quelque part une partie des reproches qu'on fait, c'est aussi parce que il y a marqué facultatif sur cette règle-là qu'on s'en est dispensé et que du coup on s'est privé de pas mal de points d'appui qui, à mon avis, auraient pu donner.
On a choisi une reine. Sur la carte, ils ne nous disent pas comment la choisir.
Adrien, ça tombe bien, c'est à toi de parler.
On était tous super emmerdés par choisir une reine. On les regardait, bah ouais, c'est des reines, il y en a plein. Le jeu ne nous dit pas, parlez-en, crée un univers. Il ne nous a rien dit. Donc on a fait, voilà, j'enlève celle-là, et puis il en reste une à la fin. Tiens, je perds au jeu.
Je suis organisé, hein, t'as vu ? Donc, alors, Adrien, c'est à toi de parler. Qu'est-ce que tu voulais dire, là ?
Ensuite, tout à l'heure, Broussaille, tu disais que notre partie à nombreux, un des éléments intéressants, c'est qu'on s'était repris des idées, qu'on avait rebondi les uns sur les autres. Le jeu ne guide pas du tout dans ce sens-là. On l'a fait complètement pour compenser.
Ça s'appelle le vide fertile.
Non, ça s'appelle un jeu mal
fait. C'est ce que tu mets pas dans le jeu, mais qui le fait marcher.
Non, c'est pas ça.
Le vide fertile, c'est pas ce que tu mets pas dans le jeu.
C'est
justement
ce que le jeu.
Justement, c'est ce que non, c'est ça a été travaillé et le jeu t'amène à faire ça. Ça c'est
là
le vide
aussi,
fertile. C'est pas la même chose que la compensation.
Parce que la première partie.
Moi, je pense que le jeu t'amène à faire ça.
Non, là, tu compenses en fait. Là, en tant que joueur, on compense.
Ah, tu penses que c'est la compensation. Moi, je pense que c'est le jeu. T'invite à le faire.
Parce que la première partie qu'on a faite...
En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis.
Ouais, mais je comprends. Et donc, la première
c'est comme ça que tu le vis de fertile.
Attends, je suis assez d'accord avec Adrien pour le coup. Ouais. Pour moi, j'aime le jeu, mais clairement, ça, il ne m'incite pas du tout à interagir avec les autres.
Alors, en fait. Je dis beaucoup du mal du jeu. Je me suis quand même amusé les deux parties que j'ai faites. Hein. Moi, je me pose en le méchant du podcast. Il y a des aspects que j'ai aimés que je pourrais défendre plus tard, mais je préfère d'abord le défoncer.
Titre.
Un des.
Du public merci. À la 45e minute, incroyable. Pardon.
Donc je reprends. Donc je disais à notre première partie, il y a eu quasiment zéro interaction entre les univers construits par les joueurs, entre les concepts créés par les personnages. Chacun a fait sa petite partie dans son
coin. Mais parce qu'on n'avait aucun élément de base.
Il
parle de la première partie où t'étais pas là.
Ah pardon.
Il y a eu quasiment rien.
Il y a eu des trucs quand même, mais c'est vrai qu'entre personnages, par contre, non.
C'était très 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 léger.
Entre univers, oui, mais personnages, non.
Donc oui, on a chacun joué de notre côté. Donc moi, la question que je voulais poser à Vivien ensuite, c'était à combien ce jeu est-il censé se jouer ?
Ah, petite question intéressante.
Parce que s'il ne le précise pas...
Ça n'est pas précisé dans les règles, puisque les règles tiennent en 19 cartes.
Dit dans la boîte, peut-être, dit Vivien, attention, suspense, Vivien
parce
va
chercher.
Parce
que là, moi, il joue à plus de 4.
N'attendez pas que mon téléphone marche, vous allez être déçus. J'arrive.
Est-ce que tu as d'autres points à apporter, à aborder, Adrien?
J'ai déjà dit que le choix des cartes, oui, certes, la règle dit, oui, choisissez une carte, ça va créer un univers. Non, la règle ne dit pas que ça va créer un univers, elle dit juste choisissez une reine. Si le jeu te... Enfin... Le jeu nous dit exactement, c'est une machine à souci, il nous dit, dites ça, dites pas ça, dites ça, parle à tel moment.
Vite, avant que mon téléphone ne se réteigne.
Par contre, le jeu ne te dit pas, prenez le temps à tel moment, prenez le temps à tel moment, alors que tout le reste, il le cadre de façon ultra, ultra militaire. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, mais soit ils mettent une carte de plus pour nous dire, il y a des règles strictes, mais laissez-vous le temps de créer l'univers... Soit ils l'ont pas mise, et ça veut dire que pour eux, ça se joue comme ça, comme une machine à saucisse, ou raconte-moi ça, fais-moi rire, raconte-moi ça, fais-moi rire, etc., etc.
C'est pas une machine à saucisse, dit Flavie, en dehors des micros. Flavie, c'est à toi de parler, c'est ton tour.
Attends, je peux donner juste l'info qu'on m'a demandé, parce que je vais pas tripoter mon smartphone pour l'empêcher de s'éteindre. Alors, je vous dis...
Il tripote son smartphone.
Oui.
Ouais. Il apporte un jeu qui s'appelle
Je dois voir la ASMR.
Je sais pas ce que t'en penses.
Je le fais sans bruit, en fait. Alors, j'annonce.
J'annonce qu'il a amené un jeu qui s'appelle Pour la Reine. Il est anglais, voilà, point.
Number of players.
Pour la Reine. Pour la Reine,
alors,
à Paris.
Pour la Reine, j'y étais ce matin, c'était pas si génial. c'est sur la route de Massy. Suspense. Number of players between 2 and 6. Donc de 2 à 6. On a explosé le nombre.
Vous n'avez pas respecté les règles.
Age of players, pardon, 13 ans et plus, mais je ne sais pas si ça vous sert, mais je vous le dis.
Tu m'étonnes, 13 ans et plus. Ah, moi,
ça me sert.
Il y a un truc que je veux dire depuis tout à l'heure et qui, à mon avis, explique la création de nombreux hacks, en fait. Parce que c'est un jeu assez facile à jouer, mais qui, pour moi, m'a entraîné énormément de frustration. Parce que c'est un jeu dans lequel j'ai aimé beaucoup de choses, mais j'étais frustrée à chaque fois de ne pas pouvoir aller aussi loin que ce que je voulais ou de ne pas réussir à créer des choses, etc. Ce qui fait que du coup, moi ce soir, en effet, je comprends qu'il y ait des hacks, j'ai qu'une seule envie, c'est de hacker le truc pour pouvoir faire un truc comme j'avais envie.
Il y a un parasite. J'ai quelqu'un qui fait parasite.
Ok, je m'en vais, pardon.
C'est bon, c'est fini. C'est le micro à côté du téléphone. C'est quoi, c'est quoi comme téléphone, ça? C'est Huawei, c'est ça?
Un Wiko.
C'est un Wiko, ça nous explique. Allez.
Donc ouais, c'est un jeu qui, pour moi, entraîne énormément de frustration, notamment sur la partie qu'on a faite à 5. Parce que, en fait, au moment où la partie s'arrête, c'est le moment où moi j'ai envie de jouer, quoi. Et c'est le moment où on a posé les personnages. Ce jeu est une pure création de groupe de jeux de rôle. C'est le début d'une, pour moi, c'est le début d'une
campagne.
D'une campagne. Et du coup, ça vaudrait le coup. C'est pour ça que moi j'étais très frustrée parce qu'on aurait mis en place un vrai contrat social au début en disant on joue sérieux et puis tu vois moi je suis tel perso dans le... ça aurait été normal. Et donc ce jeu entraîne énormément de frustration. Donc comme je disais, je suis pas étonnée qu'en fait il entraîne énormément de hacks parce que d'un côté je l'aime et d'un côté il y a des trucs qui me gênent. Alors du coup j'ai envie d'arranger ça.
Clément dans le public a levé la main depuis longtemps. Clément, qu'est-ce que tu voulais dire à ce podcast incroyable ?
Alors, je sais pas du tout ce qui a été dit jusqu'à présent, mais enfin jusqu'à ce que je rentre dans la pièce. Et que je dise mon titre, tout ça,
Bien sûr.
Ce que je voulais dire, moi, c'est la première fois que je jouais
à ce jeu. Alors, j'entends le côté saucisse.
T'as pas dit.
D'ailleurs, j'ai pas dit, mais pour moi, c'est pas une machine à saucisses. Hein. Le jeu, non, il peut pas tourner sans toi.
Alors, attends, je peux entendre que ça puisse paraître comme ça, parce que c'est vrai qu'au début, tu dis, bah, tu tires une carte et tu réponds à la question le plus simplement possible. Et c'est en fait à partir du deuxième ou troisième tour de carte où je me rends compte que, ah ouais, mais non, en fait, tu te. Alors, le truc, c'est que peut-être qu'on s'est lancé très vite. Alors, peut-être qu'on était trop nombreux, effectivement, si c'est jusqu'à 6 joueurs, on était un peu plus nombreux, mais. Peut-être qu'on s'est lancé trop vite dedans sans prendre le temps de réfléchir à quel rôle on avait,
eh ben oui.
au sein de quel rôle on pouvait se constituer. Pardon. Qu'il y avait aussi peut-être, tu vois, à un moment donné, on choisit, il y a une carte, il faut tirer une carte, on choisit l'apparence de la reine.
Oui,
avec le principe que, ça on l'a fait, mais vous avec le principe qu'il faut savoir que nous aimons tous. Ça, c'est la condition sine qua non, c'est que nous aimons tous notre reine. Mmh. Et
choix
sauf
délicat.
Qu'en fait, on n'a pas pris le temps, ne serait-ce que de on a fait tourner la carte comme ça vite fait, mais on n'a pas pris le temps de vraiment individuellement se prendre le temps de regarder la carte et de se dire ah ouais bon ok voilà la reine que j'aime.
Donc tu penses que les dysfonctionnements du jeu sont plus liés à des choses que vous n'avez pas fait en tant que joueur et que vous auriez dû faire.
Mais parce que, comme disait
Adrien,
c'est pas indiqué dans les règles.
Ouais. Là, en fait, c'est pour te recouper, excuse-moi, j'ai l'impression qu'on faisait une partie de Tinder, quoi. T'as la photo de la princesse ou de la reine et choisis, swipe à gauche, swipe à droite. Et il n'y a pas de profil, de discussion de c'est qui cette reine, quel univers, qu'est-ce qu'elle implique.
On va écrire un livre sur les comparaisons d'Adrien. Je veux dire, depuis les hamsters qui font du jeu de rôle, ils n'arrêtent pas. C'est incroyable.
Cela étant dit, pour finir brièvement, j'ai trouvé ce jeu super marrant parce qu'une fois que tu comprends en tant que joueur que. En fait, c'est pas juste répondre à la question, mais c'est imaginer ton personnage. Et du coup, quand t'es pas. En plus, bon, c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour Globo, mais il s'est inventé un personnage de nounou. Et c'était le premier à tirer les cartes dans l'histoire qu'on se racontait. C'est qu'une fois que t'as commencé à t'inventer, enfin, en tout cas, à répondre aux questions, tu t'inventes un personnage et tu te retrouves au tour suivant à pouvoir rebondir sur.
Et voilà.
À rebondir sur ce qu'a dit quelqu'un d'autre précédemment. Tu sais qu'il est censé trahir la reine à un moment, enfin qu'il a déjà trahi la reine en fait. Et du coup, comment est-ce que tu interagis avec ça? Et du coup, le jeu s'enrichit, mais comme on n'a pas le temps, en fait, ça fait pas partie des règles de dire il faut se créer le personnage dans sa tête et improviser en fonction de ce que disent les autres au fur et à mesure. Pour avoir qu'il y a autant une interaction avec et puis avoir ce lien avec la reine qui n'existe jamais, qui n'intervient jamais.
Je pense que ça sera intéressant que tu précises comment toi ton personnage a évolué à chaque tour de carte, parce que moi c'est ton personnage qui m'a le plus marqué dans son évolution. On a essayé de rebondir, on s'est envoyé quelques pics où on a essayé de poser des questions, mais je trouve que ton personnage est celui qui s'est le plus nourri des propositions qui ont été faites à droite à gauche.
Alors,
et donc ça vaudrait le coup d'expliquer d'accord. rapidement.
Clément, décris ton perso. Ouais.
Alors mon personnage au départ, la première question qu'il a eue, c'est qu'est-ce que je crois que la première question qu'il avait eue, c'était qu'est-ce que vous faites à la reine que les autres ne font pas et qui lui prodigue un plaisir immense. Moi, la première évocation, c'était un truc complètement salace et que j'ai dit bon, finalement, je vais le laisser à
Vivien.
À Vivien. Et Vivien, lui, en s'en est saisi de cette même question pour dire bah, « je suis le cuisinier et en fait, je lui fais des repas gastronomiques et gargantuesques et elle adore ça. Et en plus, elle a le bonheur de ne pas prendre de poids. »
Ce qui lui permet
Alex
de garder la même garde-robe.
Alex est devenu le maître d'armes qui s'est fait blesser par son élève, donc la reine. Et en fait, au tour suivant, je ne sais plus ce que j'ai eu dit, mais ce que j'ai vu comme question, mais la réponse a été, moi, je suis un Meister. C'est moi qui ai fait le cataplasme pour aller. Ah oui, c'était qu'est-ce que vous avez fait à la reine qui lui a procuré un bonheur immense? Eh bien, j'ai soigné son maître d'armes pour qu'elle ne se sente pas vexée ou, tu vois,
oui, donc
etc.
Vous rebondissiez quand même les uns sur les autres. Il y avait quand même des interactions
Et à un moment
légères,
donné, moi, je me suis retrouvé à être catalogué comme alchimiste. Voire même alchimiste nécromant.
Et que tu as choisi par rapport...
Attention, Alex, tu parles en dehors des micros.
Donc oui, t'es devenu de maître à alchimiste, d'alchimiste à nécromant, et plus ou moins avoué, et plus ou moins en lien avec l'opposition. Mais à chaque fois, ce sont des choix que tu as faits au fur et à mesure des propositions qui ont été faites. Oui. Donc tu étais libre de prendre ou pas, et voilà, que ça t'inspire ou pas en fait. Et effectivement, aucune règle qu'on a lue n'incitait à le faire. Mais est-ce que finalement, ça laisse pas au joueur le choix de le faire ou pas ? Et moi, j'ai apprécié sa manière de jouer à ce jeu. Mais finalement, je suis le seul à le faire remarquer là. Donc
tu
peut-être
as apprécié
que c'est
sa
une autre...
performance.
Bah peut-être, oui, complètement.
Emmanuel.
Ouais, moi, j'entends bien tout ça et je suis même plutôt d'accord. Mais il y a un moment où, alors c'est vrai qu'on était trop nombreux, mais je pense qu'on aurait été six, ça aurait été la même chose. J'ai vu Globo mettre la carte La reine est attaquée, qui signale la fin de la partie au milieu du. Ah, pardon, vas-y, Fly.
Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une règle qui est une contradiction si on est nombreux, alors qu'elle l'est pas quand on joue à peu, qui dit que quand on a une carte, en fait, on peut la donner à quelqu'un d'autre. Et en fait, quand on est peu nombreux, il y a beaucoup de cartes qui circulent parce qu'en fait, les cartes, elles reviennent très, très vite. D'accord. Quand on est nombreux, moi, ce que j'ai vu là-bas, il y a même quelqu'un qui a fait la remarque, c'est que quand tu as ta carte, en fait, c'est tellement long, en fait, d'avoir ta carte, qu'en fait, que quand tu l'as, tu n'as pas envie de la donner, même si la question ne t'intéresse pas. Et du coup, tu te forces à donner quelque chose. Donc, c'est clairement là un truc qui montre que le jeu, il ne peut pas être joué à plus de 6 parce que c'est une contradiction, alors que quand on joue à peu, vraiment, les cartes, elles circulent beaucoup.
Mais dans la droite ligne de ça, moi, la règle que je critiquerais, c'est celle de vouloir jouer avec seulement une partie du... Parce que, encore une fois, donc j'ai vu Globo mettre la carte à peu près au milieu, au tiers du paquet. Et en fait, dans ma tête, j'étais dans ce calcul de dire on a 3, 4, 5 passages. Ce qui, moi, m'a automatiquement mis dans une position... Je ne suis pas dans un jeu de rôle. Je n'ai pas la possibilité d'aller construire cette histoire. J'ai la possibilité d'aller construire un truc fun qui rebondit de personne à personne en utilisant, mais je n'aurais pas la possibilité de creuser quoi que ce soit. Et pour le coup, c'est très visuel et voilà. Et c'est pour ça aussi que cette évolution de personnage qu'a tenté Clément et qu'effectivement, je trouve intéressante, mais... J'avais une espèce de grosse frustration déjà au moment où j'ai vu Globo mettre sa carte par rapport à ça. Et ça biaise complètement la façon dont tu te lances dans le jeu.
Broussailles puis Adrien.
Alors, pour répondre quand même à deux remarques, c'est quand même un jeu dont les règles tiennent sur 19 cartes à jouer. Donc, et écrit gros, on sait que ça ne va pas être un jeu profond. Enfin, il n'y a aucun moment où on dit on peut détailler... Si on te fait 15 cartes pour t'expliquer une règle, ce ne sera pas le même type de jeu. Donc il y a des règles très simples. Mais alors, il y a le souci, j'ai l'impression qu'aussi, il y a des règles qu'on n'a pas respectées. Bon, la règle des 6, la règle aussi, enfin, qui est un peu fondamentale, elle nous a choisis car elle sait que nous l'aimons. Je crois qu'on est beaucoup, et je pense moi la première aussi, à des moments du jeu, l'avoir squeezé cette règle.
Ouais, c'est ce que j'ai dit au début. Ouais.
Et ce que je veux dire, c'est que si, enfin, on passait notre temps. Alors, oui, les questions font qu'on a des raisons de la détester. Mais on peut détester les gens qu'on aime, hein, je ne vais pas vous l'apprendre.
Oui, c'était par rapport à la première partie qu'on a faite, c'était une grosse différence parce que nous, on a tous continué à justifier nos choix alors qu'on l'aimait.
Voilà.
Alors que vous, c'était clairement du bâchage, en fait.
Ah oui, non, mais il y avait
aussi
un côté...
justifié parce que vous étiez très nombreux, donc en fait, il y avait l'ambiance.
Oui,
ça avait moins d'importance, en fait, ce que vous racontiez, du coup, parce que ça prenait trop long.
Donc c'est vrai qu'il y a des règles qu'on a un peu chintées, donc... je dirais que c'est un peu de notre faute aussi. Quoi.
Ah. Oui, bien sûr, complètement.
Et il y a quand même une règle qui nous dit, alors, elles sont très courtes les règles, il n'y en a pas beaucoup, mais les règles disent, les autres joueurs-joueuses peuvent te poser des questions ou faire des suggestions. Donc ça incite clairement aussi à ne pas monopoliser la parole, et on voit bien que quand c'est son tour, c'est pas non plus... je veux dire, on a l'autorité sur ce qu'on prend, mais ça n'empêche pas les autres de participer. Donc c'est vrai que ça crée un effet de brouhaha dans le jeu, mais je pense qu'il est, c'est un peu voulu. Un jeu qui est censé, chacun parle à son tour, on s'écoute ou quoi que ce soit.
Juste Jérôme, pendant ton absence, on a fait une découverte, on a découvert qu'on ne pouvait jouer à Force the Queen qu'à 6 maximum. C'est dans les règles du jeu. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Et je passe la parole à Adrien.
Donc moi, il y avait deux rebondissements. Un sur ce qu'avait dit Manu, sur le fait qu'elle avait vu les cartes, qu'elle avait trouvé ça dommage qu'on le mette au tiers parce qu'elle avait le sentiment que la fin arrivait et qu'on le savait qu'il y avait tant de tours.
Moi, en soi, il y a 42 cartes en tout. Si tu joues à 6 et que tu joues la totalité du paquet, ça fait 6 fois 7, 42. Ouais. Donc t'as vu ça un peu, scientifique, pur jus.
Ça m'a juste rappelé un élément que je voulais faire remarquer, que je crois que
c'est Vivien, je sais plus qui avait fait la remarque pendant la dernière partie, qui était que au bout d'un moment, on a vu passer des cartes, on a fait, mais c'est toutes les mêmes en fait. Il y a énormément de questions qu'ils ont toujours posées, plus ou moins la même chose. Il y en a une, c'est vous trouvez la reine très belle, pourquoi ? Il y en a une, c'est vous trouvez la reine très moche, pourquoi ? Et c'est plein de variations
oui,
du même.
Oui, parce que vous kiffez en fait, pas cette esthétique en
non,
fait.
Non. En fait, ce que je veux dire, c'est rien. Que quand t'as... Heureusement que la carte de fin était au milieu du paquet. Moi, je serais pas allé plus loin. Au bout d'un moment, j'en ai marre de répondre 15 fois la même question. À la limite, il y aurait eu des questions qui sortaient un peu du. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont un peu innovantes au début. Mais après, t'en as tellement qui reviennent. Pourquoi la reine vous aime beaucoup ? Pourquoi la reine vous apprécie ? Pourquoi. Enfin. C'est bon quoi, change. Donc ça c'est
le premier point. T'avais...
Mais du coup là c'est pas. Est-ce que on parle du jeu ou on parle de son contenu, de son univers ? Parce qu'est-ce que le, enfin les questions en elles-mêmes, est-ce qu'on peut dire qu'elles font partie du jeu
ou
sa déclinaison première ?
Elles font partie du jeu, oui. Bien sûr.
Est-ce que tu juges par un jeu de rôle sur toutes les déclinaisons de son univers ?
Bien
ah bah non, ce royaume il est pourri, donc le
bien
jeu
sûr.
Est pourri.
Bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Attends, je suis désolé. Tu sors Donjons et Dragons. Et dedans, il y a un royaume des bisounours entre les royaumes des elfes. Je suis désolé, je vais critiquer.
Je joue les bisounours.
J'ai critiqué le jeu en disant.
Mais grave.
J'ai critiqué le jeu en disant qu'on.
Kung Fu Panda.
Utilise ma suspension d'incrédulité, quoi. Enfin, il y a un problème, tu vois.
Blizzard.
Blizzard.
Ok, c'est pas mon cas, mais j'entends l'argument.
Et la deuxième
point
que je voulais faire, j'ai oublié, donc c'est pas grave.
Très bien, donc tu perds au jeu.
Alors,
Xavier.
Moi, je reviens sur ce que disait Griff, sur la règle numéro 11. Les autres joueurs, joueuses peuvent te poser des questions ou faire des suggestions. Moi, quand c'est mon temps de parole, la question qui m'intéresse le plus, c'est pas tant celle que je vais tirer que celle que j'attends des autres personnages à la table. C'est là que je prends vraiment mon pied. Et en fait, la réponse que je vais apporter à la question que je tire, j'essaie de la formuler pour lancer mes potes et j'attends à ce qu'ils me balancent des trucs qui vont cartonner derrière. Quoi.
C'était justement le point de ma deuxième remarque.
Bon, allez, je te redonne la parole, mais c'est bien parce que c'est
excuse-moi.
Toi.
C'est que donc le coup des questions, notre deuxième partie, ça a été insupportable, il y en avait beaucoup trop.
Voilà,
c'est vraiment invivable, mais vraiment invivable quoi.
Moi, c'est ce que j'aime.
Honnêtement, moi, sans ces questions, c'était pas invivable. Sans ces questions, la partie aurait été nulle pour moi.
C'est ça
qu'on fait le sel en fait.
Bah non, mais moi, je suis d'accord.
Rillettes.
Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est ce qui. C'est tout
sauf
à fait
si c'est l'intention de l'effet induit, sauf si l'auteur a cette intention d'effet induit de ta part.
Par contre, moi, s'il fut une grande frustration de ne pas arriver à en faire.
Clément.
Bah en fait, voilà, c'est juste. Pour rebondir sur le fait que ces questions, effectivement, en fait, c'est ces questions-là, c'est les questions des autres joueurs qui ont permis de faire vivre les personnages. Mais sauf que comme c'est pas expliqué explicite dans les règles, c'est pas forcément le plus évident.
Flavie.
Alors, moi, je voudrais rebondir sur quelque chose, sur le fait que... On rebondit beaucoup en ce moment, titre.
Boing, boing.
Vous dites beaucoup, les questions sont redondantes, c'est vrai, mais je pense que c'est en lien avec une mécanique du jeu dont on n'a pas parlé, qui est la X-Card, qui à mon avis est mal nommée, qui est en fait la carte veto, pour moi.
Oui.
Qui est la carte qui permet de dire « non, je ne vais pas répondre à cette question-là ». Sauf que c'est une question auxquelles d'autres personnes autour de la table pourraient avoir envie de répondre. Donc je pense qu'il y a des questions qui sont entre guillemets redondantes ou qui se ressemblent pour permettre déjà à la X-Card de pouvoir être placée sans que ça détruise le jeu. Parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes autour de la table qui pourront en avoir envie. Et puis, ça permet aussi, s'il y a un truc qui apparaît dont on n'a pas trop envie, paf, il y a la X-Card. Parce qu'à un moment, Globo, je te posais des questions qui étaient lors de la grosse partie un petit peu tangentes sur le fait que tes enfants, c'était pas les tiens et que, en fait, c'était ceux de la reine. Enfin, des questions qui auraient pu être pas bien. Donc, tu aurais pu dire veto sur ces trucs-là. Mais ça permet aussi de dire veto sur la carte question que j'ai piochée et qui m'intéresse pas et d'en repiocher une. Mais du coup, c'est une question qui est vendangée. Donc, si c'était une question obligatoire pour le jeu, ça voudrait dire que le jeu pourrait pas aboutir. Donc, ça permet de pouvoir continuer, en fait, la mécanique sans que ça puisse déranger.
Manu, alors, ouais, moi, par rapport, puisqu'on parle de Stoic Card, je suis un peu colère là, parce qu'on m'a beaucoup brisé les ovaires à la cellule et ailleurs pour me dire que c'était important que tout le monde soit en sécurité émotionnelle, et j'ai fini par l'entendre. Et que là, on me sorte au moment où je reviens, après avoir pas été là pendant un petit moment, qu'une X-Card, ça peut servir à être en sécurité émotionnelle, mais que la,
très exactement même X-Card sert aussi à comme mécanisme de jeu.
Parce que t'as trop
il y a un moment, j'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre, vous pouvez choisir.
Ouais, c'est non, aussi, non, je vraiment, pense qu'il faut le prendre comme un moyen de dédramatiser en fait aussi ouais, la X-Card ouais, et de dire on peut l'utiliser mais, pour ça, non, on peut l'utiliser. Enfin, ben ouais, mais si on met la pression sur les gens pour dire tu l'utilises seulement si t'as un traumatisme dans ton enfance.
Non, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a un moment. Dans ce cas-là, tu mets une carte Joker pour le jeu et puis on fait comme dans tous les jeux où on. Moi, on m'a gentiment expliqué que du coup, pour n'importe quel jeu, même où c'était pas prévu, tu mettais un petit bout de papier qui permettait aux gens de se sentir en sécurité émotionnelle. Et juste, t'appelles ça un joker. C'est un joker. Mais alors, si aussi Amy, ça me met colère, c'est parce que
c'est pas précisé, par contre, dans les règles que tu peux utiliser la X-Card pour si t'es traumatisé par ce qu'elle dit.
Oui, sauf que ça s'appelle une X-Card.
Oui, mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un problème. Du coup, on peut pas l'utiliser selon les règles pour les raisons que tu.
Ouais, sauf qu'il y a un moment, ça jette encore un flou en début de partie.
Je pense
et ça
que c'est
truc,
honnêtement, quoi. Je pense que c'est une marque d'humour en fait que ça s'appelle la X-Card.
Mais non, en fait non.
Écoute-moi, tu m'écoutes jusqu'au bout, s'il te plaît. Je veux bien que tu m'écoutes jusqu'au bout, s'il te plaît, parce que tu es le premier à le demander aussi. Je pense que c'est une marque d'humour aussi, puisqu'en fait, c'est une carte veto, une X-Card en fait, c'est un veto quand il t'arrive quelque chose qui te plaît pas au cours d'une partie. Donc peut-être ça te plaît pas que ça s'appelle une X-Card. En vrai, c'est juste le nom de la carte. Et si elle permet à quelqu'un à qui il arrivait quelque chose, par exemple, je posais des questions un peu flippettes à Globo en lui disant j'espère que les
mais
questions
moi,
te dérangent pas.
Ça, j'ai kiffé
je sais, mais
Globo
si ça t'avait dérangé, tu aurais pu dire je voudrais qu'on passe à autre chose. Mais c'est normal aussi que parce que plutôt que de se créer 10 milliards de jetons, le jeu en fait le principe là c'est que ce soit un jeu facile à jouer entre guillemets avec très peu de cartes. Le fait de mettre sur une X-Card d'autres choses sur le veto permet juste de limiter le nombre de jetons. Tu vas pas mettre un jeton pour le truc quand il t'arrive un traumatisme et qui va faire que tu vas peut-être pas oser l'utiliser. Un truc qui va faire que là t'aimes pas la carte, un truc qui va faire que là t'aimes pas machin, ça n'a pas de sens, autant tout mettre sur le même objet. Là il y a un X dessus, je trouve que c'est un magnifique trait d'humour de mettre le X dessus. En plus il y a un côté genre puis il y a un côté genre c'est l'endroit où il y a le trésor, tout ça, je trouve ça magnifique, moi, de mettre ça dessus.
Non, et dire que c'est de l'humour, c'est un crachat, je suis désolé.
Aïe. Pourquoi ?
Vraiment. Parce qu'en fait, c'est une ignorance totale de ce que, à la base, la X-Card. Et justement, au contraire, ce jeu est l'expression exacte de qu'est-ce que c'est que de dédramatiser la X-Card, comme le disait Vivien, parce que je rappelle juste l'article de base de la X-Card disait clairement qu'on pouvait l'utiliser pour des sujets aussi mineurs qu'une cigarette pour quelqu'un qui est en train d'arrêter de fumer.
T'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au contraire, que c'était bien, ça. Que je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu me dis que c'est faux? Je suis en train de dire la même chose que toi.
Mais alors, du coup, je comprends pas.
Ah oui. Non, attends, je sais. En fait, ce que t'as pas compris, c'est le truc du trait d'humour.
Bah oui, parce que pour moi, c'est pas de l'humour, en fait. C'est dédramatiser. Parce que la base de la X-Card, c'était.
Mais l'humour, c'est de la dédramatisation.
Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? La base de cette utilisation-là, dans ce jeu-là, c'est de pouvoir utiliser la X-Card, justement, en la dédramatisant, en enlevant le côté.
Je pense que c'est ce que vous voulez dire, Flavie.
Traumatisant. Mais c'est ce que j'ai dit.
Oui, mais en fait, dire que c'est une blague, du coup, à mon avis,
c'est très mauvais
goût. J'ai
pas dit que c'était une blague, j'ai dit que c'était un trait d'humour.
Désolé, bah ouais.
J'ai pas dit que c'était une blague.
Ouais, mais pour moi, un trait d'humour, c'est pas un trait d'humour.
Mais un trait d'humour, l'humour, ça a plein de formes différentes. Il y a plein d'humour qui servent à dédramatiser des choses affreuses et qui permettent de pouvoir en parler.
C'est juste une dédramatisation, c'est pas de l'humour.
Le problème, c'est que ton discours peut être assimilé, Fly, on à ceux qui disent oui, la X-Card, c'est une blague.
Non, au contraire, c'est un trait d'humour face aux gens justement, qui pensent que c'est une blague.
C'est bien de corriger. Tu t'es moqué vraiment dans ce que tu as dit, Fly. Y a
dans ce que j'ai dit, j'ai bien expliqué que pour moi, ça permettait de l'utiliser et de faire un trait d'humour face aux gens qui n'aiment pas ça.
Je pense
que pour moi, c'est évident.
Mais vraiment, enfin. Vu les gens qui sont anti-X-Card et leur façon d'utiliser l'ironie permanente, c'est devenu
parce que moi j'ai déjà été anti-X-Card, Jérôme.
Non, mais le problème, c'est que du coup, là, ce que tu dis, c'est exactement leur discours quasiment.
Bah non, je suis en train de dire que justement, ça permet de l'utiliser et justement de permettre à la personne autour de la table de ne pas préciser pourquoi
d'accord,
elle
mais
l'utilise.
Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi.
Mais bon, après, les auditeurs sont intelligents, ils se feront leur avis. Les auditeurs et auditrices sont intelligents, ils se feront.
Oui, mais voilà, mais vraiment, il y a plus avec. On dédramatise à la X-Card où justement, on s'en sert pour des éléments même mineurs.
Pour
et
toi.
C'était dans l'article de base, c'est pas pour moi, c'est pour l'auteur de base de l'article sur la X-Card qui disait entraînez-vous à l'utiliser pour des éléments mineurs. Comme ça, vous pourrez l'utiliser pour des éléments majeurs plus tard.
Pour autant, est-ce que tu crois pas quand même que le fait que le jeu se présente comme un jeu de cartes, à inciter quand même l'auteur, l'autrice. Non, mais écoute-moi jusqu'au bout. À inciter l'auteur, l'autrice à mettre une X-card. Parce que honnêtement, c'est adapté. Je dis pas que c'est drôle, je dis pas que c'est une blague, mais c'est adapté. Le format du jeu est adapté à la présence d'une X-card, oui ou non.
Et puis la X-card fait le buzz. Donc,
et la X-card fait le buzz.
Donc c'est normal. Enfin, il y a une logique à ce qu'ils l'introduisent dans son jeu à ce moment-là.
Voilà, il y a une logique. Je dirais pas que c'est une blague, mais c'est un trick, tu vois. C'est une astuce bien vue. On a envie de dire à l'auteur, hé, bien vu, t'as fait un jeu de cartes et t'y as mis une X-card.
Je connais pas l'auteur et moi, je n'imputerai pas d'avis ni rien. Ça se trouve, c'est une crevure, j'en sais rien.
Voilà, bah, après, c'est un point de vue perso.
Si je peux juste apporter une petite chose.
Alex, puis Manu.
La X-card, moi, tel que je l'ai compris, d'après la règle.
Et c'est le podcast parfait, on parle de
X-card.
On s'engueule sur un jeu.
C'est simplement une carte sur laquelle on peut dire
Party Game. Veto. Et 137 commentaires, hein.
Ce que je disais donc, c'est que la X-card, en fait, c'est un moyen d'appeler au veto, mais pas forcément parce que ce que tu dis, ce que tu me demandes me dérange, simplement parce que je ne sais pas quoi dire et je n'ai pas envie de le voir dans la fiction. Ça peut être aussi juste une histoire d'envie manquante. La question que tu m'as posée, je sais pas, par exemple, à un moment, j'ai introduit une histoire de nécromancien, quelqu'un a un peu dire non. Non, pourquoi ? Parce que je l'ai vu les 10 parties d'avant et j'en ai marre.
Et
c'est juste ça, c'est pas une histoire de traumatisme, que ce soit mineur, majeur. Non, juste non. Et en ça, je trouve ça bien, parce que quand on y va, on n'a pas envie d'y aller, enfin, on n'est pas incité à y aller, mais elle existe toujours cette sécurité ou cette possibilité de rediriger l'histoire vers ailleurs.
Emmanuel.
Merci Flavia, tu fais un très bon animateur de podcast. Non, alors plus sérieusement, du coup, j'entends totalement les arguments et je les reçois très, très favorablement et très positivement. Mais pour le coup... Ça pose aussi cette question de est-ce qu'il y a un moment où juste plutôt que de l'utiliser comme un veto, est-ce que cette X-card tu te permettrais pas, et je me suis posé un peu la question sur la fin au moment de l'attaque de la reine, je l'ai posé un peu en aparté à Globo, est-ce que cette X-card tu peux t'en servir comme ressort narratif, au sens où par exemple je sens que ce que tu es en train de dire va avantager ton personnage, désavantager le mien, ou au contraire que je vois apparaître un truc narratif, un truc intéressant, et que j'ai envie d'utiliser la X-card pour empêcher quelque chose d'arriver et permettre à quelque chose d'autre d'arriver. Mais en même temps, je ne me permettrais pas éthiquement d'utiliser une X-card juste pour faire une belle histoire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Le seul enjeu ludiste qu'il pourrait y avoir autour de la X-card, c'est que je coupe la parole à tous les gens qui ne sont pas moi. Pour être le seul à parler.
Que tu fais déjà dans les podcasts, donc du coup, c'est pas utile.
Non,
ça balance.
Je rigole.
Les auditeurs et auditrices jugeront.
Cœur avec les doigts, Adrien.
Dans ce jeu, la X-card, non, elle a pas d'impact ludiste, en fait, vu qu'il n'y a pas d'enjeu ludiste dans ce jeu.
Non, mais tu pourras avoir envie de l'utiliser un jeu de création d'histoire, quoi. Et finalement, le fait que... Enfin,
oui, dans un autre jeu, dans... oui, tu pourras
non,
envisager
non,
que...
Non, le, mais je veux dire, dans les règles, ça peut être ça. De dire, j'empêche l'histoire de partir dans cette direction parce que j'ai envie de la faire partir dans cette direction. Et telle qu'elle est présentée, elle pourrait servir à ça.
Moi, ça me dérangerait beaucoup. Alors, je ne suis pas un super fan des X-Cards. Mais ça me dérangerait que dans un jeu, la X-Card est un enjeu stratégique. Si en plus elle devait servir pour la sécurité émotionnelle.
Mais c'est précisément ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, la façon dont elle me l'a présenté au début, cette X-card, et peut-être que je suis un peu blonde. Non, on a dit qu'on faisait pas de blagues sur les blondes. Mais dans les règles.
Dans les règles, c'est présenté comment la X-card ?
C'est présenté de façon très succincte et moi je suis restée dans ce doute là tout le long.
Mais tu peux le jouer comme un élément tactique si tu le veux.
Mais si tu veux,
voilà.
Parce que c'est autorisé par les règles.
De création d'histoire. De création d'histoire.
S'il n'y a pas de règles qui précise comment utiliser la X-card, ça veut dire que chacune vient à la partie avec ses préjugés, ses présupposés sur ce qu'elle est.
Il est écrit donc règle numéro 13, s'il y a une carte ou une réponse que tu ne souhaites pas inclure dans l'histoire, touche la carte X, ce contenu est retiré du jeu.
Ok, donc ça c'est clair et net.
Donc c'est clair.
Ne souhaites pas, ça peut être en termes de récit d'histoire. Quoi.
Oui, bien sûr, c'est clair dans le sens... Ça peut protéger, ça peut recadrer l'histoire. Ah. Et surtout, moi, ce que j'apprécie là-dedans, ce qu'évoquait tout à l'heure
Jérôme,
c'est que je n'aime pas le concept d'X-card qui est mis devant comme « Eh, si ça ne va pas, t'appuies dessus ». Je déteste ça.
Mm-hmm.
Parce que, en fait, tu n'as pas besoin d'un élément aussi dramatisant que ça. Tu peux juste le dire. Enfin, il y a plein de manières de gérer ces situations-là.
Enfin, ouais, on a eu 10 000 fois ces débats-là. Et c'est vrai que
si tu veux le jouer de façon smooth, bah, je suis désolé. Il faut camoufler ça derrière autre chose qui est s'il y a quelque chose que tu ne veux pas dans l'histoire parce que c'est pas cohérent, parce que machin. Et que ça, ce soit un des sous-cas. Parce que sinon, c'est... Enfin, donc là, c'est pour ça que je suis d'accord avec la formulation de la carte.
Après, c'est sûr que, puisque c'est la règle numéro 13, si tu veux être particulièrement chiant, particulièrement anti-jeu, tu peux aussi juste venir à la partie pour dire « Ah, non, non, cette question-là, non, X-card. Ah, celle-là aussi, X-card. Et puis, ah, bah, ça y est, la reine est attaquée, la défendez-vous, X-card. »
Ouais, oui, bien sûr.
Et je veux dire, tu peux jouer complètement dans les règles, complètement anti-jeu, et ça pose la question de, effectivement,
la bienveillance et la malveillance dont tu parlais.
Voilà. Et
non, tu ne peux pas, parce que règle 17.
Oh, il est formidable cet homme-là.
Continuer de répondre, passer ou utiliser la X card jusqu'à ce que la carte la reine est attaquée soit tirée. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la carte la reine est attaquée sort, la X card ne peut plus être utilisée.
Eh bien, merci Adrien, car tu viens de répondre à la question que me posait Emmanuel. En cours de partie.
Alors après, c'est peut-être une formulation hasardeuse, parce que du coup, ça veut dire que après que la reine est attaquée, t'as le droit de
tuer des enfants, faire des trucs
super violents et tout, et personne n'a le droit de mettre son veto. Mais bon. Mais bon. N'empêche, je suis d'accord, j'ai blagué avec ça pendant les parties, j'ai fait qu'est-ce qui se passe si je touche la X-card pendant tout le long de la partie, quoi.
Systématiquement.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Broussaille.
Oui, d'autant qu'il y a. Enfin. Je sais pas si on l'a précisé à un moment ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'enjeu dans ce jeu, d'enjeu ludique, puisqu'il n'y a pas de gagnant à la fin, il n'y a pas de perdant à la fin.
La reine perd à la fin quand même.
Elle perd pas, en fait. On dit pas qu'elle perd, enfin, on dit pas qu'elle meurt, on dit qu'elle est attaquée et on demande si chacun la défend.
D'accord.
Et on dit pas plus, c'est-à-dire, en fait, nous on a conclu que comme la plupart des gens ne la défendaient pas, elle mourait, mais c'est un choix. Quoi ? Non ?
Je suis pas d'accord avec ça. On a conclu qu'elle mourait parce que personne n'a vraiment pris de décision, mais qu'à
si
un moment,
on était deux à la défendre.
Oui, bon. Non, vous étiez deux à la défendre, mais à un moment, Clément a dit je découpe un bras. Le nécromancien a dit je découpe un bras pour pouvoir récupérer. C'est toi qui l'avais proposé.
Et
pour la cuisine, oui.
C'est moi pour faire de la soupe avec.
Alors, mais ceci dit, je pense qu'il s'est permis de le faire parce qu'il était à la fin.
C'était le dernier à parler. D'accord. Et aucune règle nous disait qu'on n'avait pas à le préciser.
Mais bien sûr, mais aucune règle n'interdisait de le dire avant, mais aucune règle ne disait non plus qu'il fallait se décider. Si tu veux, on est complètement dans le flou là-dessus.
Et ce que je trouve magnifique, en fait.
Oui, bien sûr. Mais il n'empêche qu'on peut laisser dans le flou ou que même le premier joueur peut, dans sa narration,
il aurait même
venir
pu
le
peut-être
balancer.
Le premier l'introduire si on sait qu'elle va se faire attaquer. Presque, on pourrait presque dire voilà l'histoire qui a précédé sa mort.
Broussaille, t'avais fini ton point ? J'étais pas sûr.
Oui, donc comme il n'y avait pas d'enjeu, enfin, là on a choisi donc, de façon un peu collective sa mort ou quoi que ce soit, on a choisi de ne pas rebondir aussi sur le fait qu'elle était tuée à la fin ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, enfin, juste pour rebondir juste sur la X-card, c'est qu'il n'y a pas du tout d'enjeu ludique derrière, il n'y a rien qui permet... Bon, à part faire de l'anti-jeu et ne répondre à aucune question, mais ça c'est de l'anti-jeu...
On voit bien que c'est pas possible.
Il n'y a pas... Il n'y a pas du tout d'enjeu.
On ne peut pas jouer dans ce cas-là.
C'est pareil, on peut se mettre en avant quand on répond à une question, on peut ridiculiser les autres. Enfin, il n'y a rien qui utilise de se moquer des autres. Mais, on ne gagne pas, on ne perd pas. Et si on le fait, à part ennuyer les autres, je ne vois pas ce qu'on en tire, en fait.
Manu puis Alex. Il y avait Xavier aussi qui voulait, non ? Ok, alors Manu puis Alex.
On pourrait complètement utiliser cette X-card pour réorienter l'histoire et dans une idée juste de vouloir construire une histoire et puis ça pourrait être énormément de rebondissements. Surtout qu'après la X-card, rien n'empêche la personne qui a été interrompue de recréer autre chose. Donc finalement, la seule chose qui poserait problème par rapport à ça, c'est l'éthique. C'est est-ce qu'on utilise une X-card pour faire une plus belle histoire ou pas ?
Mais de la même manière, moi, dans une partie de jeu de rôle, j'ai des joueurs qui peuvent se montrer lourds et monopoliser la parole, vouloir toujours des apartés. Et à un moment, tu n'as pas de règles pour le gérer, en fait. Donc,
alors que là, avec la X-card, ça t'apporte un moyen de prendre la parole de...
Non, mais là, par rapport à un joueur qui abuserait de cette X-card pour rediriger, on est des joueurs et forcément, il y a un petit contrat social. Enfin, moi, je crois plus à ça. Après, je voudrais juste... J'ai pas tout le passif sur la X-card. C'est un sujet que je suis de très loin. Et je trouve que finalement, dans ce jeu, quand on n'a pas ce bagage, elle passe bien. Peu importe son nom, la règle est simple. Ça te touche de trop, tu n'aimes pas. Voilà, ça marche comme ça. Et basta. Et du coup, en fait, comme en plus, c'est plus riche que ça, il n'y a pas besoin... Non, je n'ai pas révélé quelque chose sur moi. Je ne suis pas en train de vous dire que ça me traumatise. Je suis en train juste de vous dire que il n'y aura pas ça dans l'histoire. Et c'est tout.
Alors, Xavier. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le fait de c'est pas un jeu ludiste, c'est qu'on n'est jamais récompensé par le jeu.
tu ne gagnes rien à répondre ou à ne pas répondre ou à faire une bonne réponse. Ou la seule récompense que tu as, elle est sociale par ce que te retournent les autres joueurs. Mais c'est pas le jeu qui te récompense.
D'accord. Eh bien, voilà, je crois que chacun a dit ce qu'il avait à dire.
Non, non. Adrien ne nous a pas dit ce qu'il avait aimé dans ce jeu. Il a dit qu'il le dirait plus tard.
J'en ai dit une partie au tout début.
Pas mal. Il a dit, donc, on résume la pensée d'Adrien jusqu'à maintenant. C'est le Tinder du JDR et c'est le Candy Crush du JDR.
Même il était une fois, c'était mieux.
On a osé le choix de la reine est similaire à Tinder. Effectivement, je faisais une blague sur le même. Bon, peu importe.
Mais t'inquiète.
Moi, ce que j'ai apprécié dans ce jeu et ce que j'apprécie en fait dans tous ces jeux de story game, c'est qu'en fait, moi, j'ai aucun problème à improviser. J'aime ça. Donc c'est un truc, je le fais sans problème. C'est juste que le jeu le fait de façon très maladroite en fait.
Absolument, je trouve pas.
Tu penses qu'il y a des meilleurs...
C'est la partie positive du coup.
Ouais, c'est ça. C'est j'aime ce genre de jeu.
Ce genre de jeu, tu trouves que c'est un genre de jeu qui est intéressant en soi, mais tu trouves que ce jeu-là, pour la reine, le fait pas bien.
Les cartes sont pas adaptées, ou alors le fait que ce soit pour la reine, il y a peut-être des hacks qui sont bien.
Non, la question, c'était pas de recommencer le podcast. Hein, c'était juste de nous dire pourquoi t'as aimé ce jeu.
Alors du coup, je vais dans le sens de, je sais plus qui c'est qui disait ça, que oui, le système, il y a un intérêt derrière le système, c'est juste qu'il est bancal aujourd'hui.
Et Clément.
Pour finir, on était en train d'en discuter à côté.
Si vous discutez à côté, pourquoi vous venez pas le faire dans les micros?
Mais parce que justement, parce que tu vois, on n'avait pas les micros, tout ça. Mais bon, bref, juste pour dire, voilà, c'est un peu, j'imagine, je sais pas si je vais pas résumer, être redondant, tout ça. Mais en fait, c'est ça, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé à côté.
Mais c'est scandaleux ça. Il se passe des podcasts dans mes couloirs.
Avant, il n'y avait pas de podcast pendant le podcast. Maintenant, il n'y a pas de podcast pendant le podcast.
Alors, c'est que en fait, il est hyper fun. Ce jeu, il se base en fait sur l'improvisation. Et l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Et alors effectivement, bon, on était peut-être un peu plus nombreux que les règles, etc. D'accord. Mais en soi, ça nous a pas empêché de jouer, de bien se marrer quand on a fait le truc. Mais effectivement, il y a tellement de non-dits dans les règles que si t'es pas un joueur averti et que t'as aucune sensibilité à l'improvisation, c'est compliqué d'y prendre son pied. Et je dis ça alors que c'est la première fois que j'y joue, que je ne vous connais pas. On rebondissait juste aussi, désolé, j'y repense pour finir, à ce côté truc émotionnel, machin, tout ça. Moi, là, j'ai joué sur le X, j'ai évité le X parce qu'à un moment donné, la première question qu'on m'a posée, j'avais envie d'entendre
la réponse de quelqu'un d'autre.
Non, c'est pas que j'avais envie d'entendre la réponse de quelqu'un d'autre. C'est que moi, la première évocation, comme je disais tout à l'heure, c'était une image salace et j'avais pas envie de partir dans un personnage
là-dessus,
salace.
Ouais.
Donc, j'ai laissé la question à quelqu'un d'autre sans savoir que ça allait déboucher sur quelque chose d'aussi salace qui est la gastronomie gargantuesque de Vivien. Mais en attendant, voilà, tout le monde s'est nourri. On s'est nourri des réponses des uns des autres. Tu vois, voilà, les non-dits, par exemple, ce qui n'est pas explicite, c'est que les questions que vont nous poser les autres joueurs vont nourrir le personnage, puisqu'on ne sait pas qu'on a un personnage à se créer. Et que derrière, du coup, ça demande... pour ce qui est du... Moi, effectivement, j'ai pas voulu toucher le X, parce que, comme tu dis, effectivement, il peut y avoir ce rapport à la censure émotionnelle personnelle. Enfin, je sais pas comment tu expliquais.
La sécurité émotionnelle. J'ai longuement bassiné avec cette histoire.
Voilà, la sécurité émotionnelle. Mais pour moi, c'était pas une question de sécurité émotionnelle si j'ai passé la question.
En c'est plus, juste toucher le X pour éviter une image salace, je comprends que ça t'ait un peu gêné, quoi.
Oh, il est beau, il est grand, il est fort.
Mais c'est que, effectivement, c'était quelque chose qui... Pour moi, ça rentrait pas en ligne de compte. On est des personnages, mais comme on prend pas le temps, comme on n'a pas pris le temps, effectivement, parce que les règles ne disent pas que c'est important de prendre ce temps-là. En fait, c'est ça pour moi le plus gros défaut de ce que j'ai pu constater sur une partie. Hein, attention, une partie, c'est que comme il y a trop de non-dits sur comment préparer le jeu en amont. Ouais. On se retrouve à devoir être en impro et il y en a qui sont pas du tout faits pour ça, enfin qui sont pas du tout habitués à ça, c'est pas une question de faits pour ça.
C'est pas exercé à ça.
Exercé à ça. Et que du coup, effectivement, ça peut poser problème.
juste pour, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais juste pour info, toi, Adrien, tu aimes beaucoup l'impro aussi et tu as fait du théâtre d'impro. Et ce qui explique aussi que tu te sens à l'aise dans le Baron Munchausen.
Bien sûr, complètement. Voilà. Ouais.
Voilà. Alors, je voudrais juste une petite parenthèse, hein, puisque ce que dit Clément m'a fait rebondir sur ma première surprise dans le jeu. À aucun moment, il n'est présenté dans les règles qu'on va créer un rôle. Et s'il fallait faire un reproche, ce serait ça, c'est que quand on, je connais pas le jeu, on le démarre, toutes les règles sont dans les cartes, donc on les lit chacun à notre tour. Aucun moment, il nous est dit, enfin les cartes s'adressent à nous, nous joueurs, et se transforment à nous, personnages. Et ça, la transformation, c'est pas faite. Et clairement, pour moi, au début, ça a été compliqué de le comprendre. Ouais. C'était bête. Et je me suis même demandé si on faisait un jeu de rôle. Et quand vous dites, c'est un jeu d'histoire, un jeu de rôle, si, c'est un jeu de rôle parce qu'on se crée un personnage. Mais c'est jamais dit.
C'est la question que je voulais te poser, Vivien, ou à toi, Globo, si vous avez tous les deux la réponse. Et est-ce que l'auteur ou l'autrice, je crois que c'est une autrice d'ailleurs, présente le jeu comme un jeu de rôle?
Que dit la boîte, quoi, finalement?
Que dit la boîte? Est-ce que c'est quoi l'étiquette? D'accord, très bien. Voilà.
Alors, attends. D'un autre côté, on plaide pour son personnage à travers quelque chose. Alors, moi, qui me touche quand même, parce qu'on parle quand même d'amour dans ce jeu-là. Et des limites de l'amour. Et c'est très marrant comme ça révèle quelque chose de nous. En fait, le jeu révèle quelque chose de nous. Et ce... Alors, oui, on peut le hacker, je pense, de 15 000 façons différentes.
Mais le ce jeu-là,
pour
ce
la reine, la reine n'est pas là. On en parle alors qu'elle n'est pas là. Ouais. On parle d'elle derrière elle, dans son dos. Elle nous aime. Et on l'aime. Mmh. Et en fait, honnêtement, moi, je dirais que... On a certains des conceptions de l'amour qui sont assez, on va dire, un peu malsaines, parce que honnêtement...
Tu veux dire que manger le bras de son amant,
c'est pas...
Je vois pas le problème.
Ça dépend, mais...
J'en ai fait de la soupe et je l'ai distribué au monde.
On a vraiment, en fait, ça nous oblige à nous positionner par rapport à une question qui n'est pas facile, parce que parler d'amour en général autour d'une table alors qu'on est six, je pense que si on lançait le sujet, alors parlons d'amour autour de la table, c'est quoi pour vous l'amour? Là, par contre, je pense que ça permet de lancer ce sujet de manière un peu dédramatisée, parce que justement, on en parle au travers de personnages. Alors oui, justement, il y a un petit bleed, parce que
oui,
c'est
le fait qu'un jeu lance un sujet de conversation n'en fait pas pour autant un bon jeu de rôle.
Oui, mais en même temps, ce qu'a dit Flavie tout à l'heure, c'est qu'on a envie de continuer après, et je me dis, ça peut servir en fait d'intro à un jeu de rôle.
Ouais. Mais... Juste Vivien, pour répondre à la question que vous m'avez posée avant que mon téléphone ne s'éteigne à nouveau.
La déprime, Vivien. Je sais sens que ça va faire comme le podcast de la semaine dernière.
C'est ce téléphone, écoutez.
C'est le désespoir, la conclusion.
Non, en fait, donc j'ai pas le message de Alex Roberts elle-même. Par contre, j'ai donc la présentation du site de vente qui décrit le truc comme un story building game basé sur des cartes. Donc, on est dans la construction d'histoire. Et un peu plus bas, c'est décrit. Mais bon, après, c'est les type of games. Donc ça, là, on peut pas en faire confiance parce que ça doit être des catégories.
Mais tu vois,
c'est en amont, quoi.
Du coup, le rôliste qui arrive avec son attente, par exemple, du jeu de rôle traditionnel, etc., qui est confronté à ça, et ben forcément, voilà, c'est peut-être que l'étiquetage est pas forcément.
Mais c'est ça. Et puis nous, on démarre en nous disant, c'est un jeu de 30 minutes, c'est avec des cartes, de ouf. Enfin, tu me parles de bleed, mais il y a un moment, à aucun moment, je me suis projeté dans un truc aussi imprégnant, parce que 30 minutes, parce que des cartes, parce qu'un mécanisme de tirage tour à tour qui fait que, enfin, moi, l'idée même d'une immersion, il y a un moment où. Par contre,
l'immersion,
le truc que j'y ai vu, moi, et le truc qui m'a semblé intéressant, c'est à un moment, ce petit côté, on a tous quand même pris ses voix théâtrales. Fly m'a suggéré un truc idiot avec des chaussettes, c'était extrêmement drôle. Du coup, j'ai joué le...
On veut en savoir plus à ce niveau du podcast. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec les chaussettes?
Ma reine aimait que je lui passe les chaussettes, a suggéré Flavie. Donc forcément, moi, je joue le truc, j'étends le bras, j'étends la jambe, et plus la chaussette est longue, Marie.
De toute façon.
Plus le plaisir est long.
Emmanuel, de toute façon, c'est pour ça que j'aime jouer avec toi. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe quand on est
chaussette.
Mais non, mais il y a un moment où c'est... Où...
Et après, tu dis que tu blides pas. Hein, t'étends la jambe, tu penses à la chaussette.
Mais tout du bleed, c'est du jeu théâtral, c'est du jeu d'impro où il y a zéro implication émotionnelle dedans.
Zéro, zéro? 1%, même pas.
Viens me voir en spectacle.
Non, mais c'est pas. À ce moment-là, oui, dans aucun jeu de rôle, je m'implique, quoi, tu vois, parce que si je joue à chaque fois un rôle, oui, je
confonds
pas.
Non, mais c'est juste que moi, je me serais pas impliqué quand on m'a dit, t'as 30 minutes de jeu et en plus, chacun va tirer les cartes tour à tour.
C'est pas le fait qu'il y ait 30 minutes de jeu qui fait que tu t'impliques pas, je pense.
C'est quoi alors, Fly?
Tu peux préciser?
Précise, parce que...
Désolée, Glo, tu m'as posé une question. C'est comme quand tu prends la carte et Claude t'a posé une question, tu dois attendre, désolée.
T'inquiète pas, tu auras le micro, Xavier.
C'est quoi la question? Vous pouvez répéter la question?
Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi est-ce que tu
pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas
parce
30
que,
minutes qui gênent?
Parce que c'était les uns à côté des autres et que ça n'allait pas assez loin et que, en fait, moi, le build now... Pour moi, c'est vraiment, tu prends la carte, tu crées comme ça d'un coup. Moi, j'ai besoin d'un peu plus
De recul,
de background
temps,
et de recul, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un bon début
sens,
pour un début.
T'as besoin de temps, ouais.
Et voilà. Et donc, moi, je peux facilement raconter des trucs, c'est pas le problème. Mais du coup, j'aurais pas d'implication
j'aurais
émotionnelle.
Juste passer la broussaille.
Et attention, c'est pas parce que...
J'aurais juste passer la parole à broussaille et lui demander de me décrire un caméléon.
Attends, c'est pas parce qu'il y a que 30 minutes que tu peux pas t'impliquer émotionnellement, c'est pas parce que tu t'impliques pas émotionnellement que tu ne peux pas aimer l'histoire que tu crées.
Tu vois, imagine, je te passe la parole, je te dis, le caméléon donc, tu disais ?
Oui, le caméléon, non.
Non mais tu vois, ça n'a aucun sens. Bah justement, moi c'est ça que je reproche à ce type de jeu. Bah si, c'est ça. On pose une question
ex nihilo, et on me dit,
fais du sens avec ça.
La base quand même de l'impro, enfin je veux dire du théâtre d'impro, c'est que tu dois faire avec des éléments qui te sont imposés dans un minimum de temps, quelque chose qui soit à peu près cohérent. Alors après, oui, ça part très... Enfin...
Mais donc c'est un jeu extrêmement élitiste. Alors du coup, ce que Globo voulait dire au début, qu'il le donnait... Bah si.
Mais arrêtez avec l'élitisme. Ah, non, mais... Alors attends, ça fait 10 plombes que vous arrêtez pas de dire ça, et comme par hasard, ceux qui en parlent, c'est ceux qui ont eu aucun problème. Mais arrêtez de vous mettre à la place des gens qui ont un problème. Attendez que les gens qui ont un problème en parlent, quoi, au bout d'un moment.
Non,
c'est sympa de
parler.
Alors, improviser au jeu de rôle, tu peux jouer avec des enfants de 5e qui ont jamais joué au jeu de rôle et qui arrivent très vite à improviser des histoires complètement farfelues sur n'importe quoi à partir d'un élément. Enfin, c'est la base, il était une fois. Il y a des gens qui aiment pas, il était une fois. Il y a des gens qui adorent, il était une fois. Qui arrivent à broder, on leur donne. Alors, oui, enfin, c'est pas, j'ai pas, il était une fois, mais on donne un colt et une bouteille de whisky. Il y a des gens qui arrivent à tenir une demi-heure là-dessus. sans forcément avoir fait des années de théâtre d'impro. Et puis il y a des gens qui, ben oui, qui vont pas pouvoir, enfin, qui vont être secs dessus. Mais ça, je veux dire, enfin, je dirais que c'est un peu le contrat du jeu, quoi. Enfin...
Juste Xavier puis Manu. Xavier.
Oui, alors moi, je reconnais que ce jeu, je sais pas si je le classerais vraiment dans la catégorie jeu de rôle. On est pour moi sur un jeu frontière qui est à la limite de plusieurs choses. Moi, ce qui m'intéresse dans ce jeu, je le vois surtout comme un éducatif. Moi, je pense que c'est un jeu qui peut justement entraîner à l'improvisation, qui peut entraîner à poser des questions. Et je trouve intéressant, si on veut jouer en jeu émergent du jeu de rôle, de développer une culture de la question, c'est-à-dire une culture de l'habitude de poser des questions aux autres joueurs.
Ce que tu as dit tout à l'heure. Donc pour toi c'est pas élitiste, au contraire c'est
pédagogique. Voilà, pour moi c'est pédagogique.
C'est une marche pédagogique.
Mais du coup effectivement je veux bien le voir comme un espèce d'échauffement. Enfin quand on fait un peu de théâtre d'impro, j'en ai pas fait énormément. J'ai vraiment effleuré le truc, mais effectivement quand t'es en échauffement avec ton équipe juste avant de monter sur scène, t'es dans ce genre de truc où tu envoies des trucs et il faut renvoyer directement. Quelque part quand t'es en théâtre d'impro, la thématique elle est fixée au moment où la scène commence. Et après, tu as des rebondissements. Ça ressemblerait à du théâtre d'impro si on avait tous notre carte en main dès le début et qu'on pouvait intervenir au moment où on a envie d'intervenir et en suivant cette carte-là. Là, le fait que ce soit du tour à tour va vachement, je trouve, casser ce truc-là.
Ça
parce qu'il manque une notion d'intention qui fait que, du coup, tu as cette construction cohérente qui peut se mettre en place et du coup cette implication mais après c'est mitigé parce que j'ai quand même eu ce plaisir de théâtre, ce plaisir à des moments de jeu de rôle, mais pas avec l'implication. Et encore une fois, j'ai beau faire un geste à la con pour une histoire de chaussettes à la con, ça reste plus pour le côté rebondir et donner de la matière aux autres que pour le côté construire quelque chose et valider le personnage que j'ai envisagé.
Romaric.
Il y a quelque chose que vous avez abordé en fait, que vous avez quasiment pas abordé, mais moi qui marque à l'écoute de vos retours. Le jeu s'appelle Pour la Reine La mécanique du jeu, c'est qu'à un moment donné, on va devoir choisir si on la défend ou on la défend pas. Tout ça, quand même, m'invite beaucoup à imaginer un jeu drama, narrativiste, où à la fin, je vais me poser des questions sur est-ce que cette reine mérite vraiment d'être défendue ou est-ce qu'au contraire, je dois la laisser mourir. Et au final, tous les retours que vous faites, ça semble tellement loin de la promesse qui m'a été faite quand j'ai entendu le pitch du jeu. Mais alors,
effectivement, je suis d'accord avec toi. Et du coup, moi, tout le jeu vend ça.
Ultra déçu par ce podcast. Moi, j'avais envie de jouer à ce jeu. On m'avait vendu. Mais si j'écoute ce podcast, je me dis ah ouais, ok, ce jeu, c'est... moi, en tout cas, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Après, maintenant, après ce podcast, du coup, je vais dans le jeu en sachant ce à quoi je vais jouer. Et là, peut-être que je vais prendre mon pied. Mais a priori, je ne m'étais pas du tout imaginé ça. Et ça, ça explique aussi peut-être en grande partie la déception que peuvent ressentir certains rôlistes à la porte du jeu.
Attends, ton analyse, justement, sur le côté drama, il est tout à fait validé par les cartes. Les cartes qui sont là pour poser des questions et qui, toutes les questions, mettent un peu en jeu ce que tu penses
ton
de la reine.
Ton amour pour elle.
Ton amour pour la reine. Et donc, le jeu dit, tu aimes la reine, et ensuite, par plein de petits... Alors, il n'y a pas que ça, on en avait blagué sur la première partie, c'est que moi, j'avais quasiment eu que des cartes positives et tous les autres des cartes négatives pour la reine, mais il n'empêche qu'effectivement, ça pousse à ce truc-là. Sauf qu'on était trop nombreux sur la deuxième partie.
Ouais, d'accord, ok. Ouais.
Je pense que...
Le nombre, là aussi, tu dirais
faire
le
très
nombre.
Très attention, c'est que notre première partie, on n'en a pas assez parlé, parce que certains sont allés se coucher maintenant, parce que on l'a faite il y a quelques heures.
Elle a mieux marché.
Je pense qu'elle avait mieux marché.
Ouais, dit Flavie.
Elle avait mieux marché. Il y a eu quand même des.
Il y a eu des moments très très chouettes dans cette partie.
Il y a eu des beaux flottements aussi, parce que je me rappelle que typiquement, quand on parlait de la X-Card, j'y ai repensé récemment, mais Fabien l'a utilisé à un moment donné pour avoir cette carte. J'en ai déjà vu deux comme ça, c'est bon quoi.
Ah oui, donc il y a eu en plus.
Il l'a fait une fois, ouais. D'accord.
Donc cette première partie qui respectait les règles du jeu, puisqu'elle était au nombre de joueurs adéquat, vous le dites ici dans ces micros, a mieux fonctionné que celle qu'on est en train de
jouer. Carrément.
Oui, bien sûr.
Très bien.
Mais il n'empêche qu'on avait quand même.
Ça, c'est quand même à mettre au crédit du jeu, tu vois.
On avait quand même cette sensation d'ennui et d'attente de tour de parole.
D'accord,
okay, Fabien n'est pas là pour le dire, mais il ne s'est pas éclaté.
Fabien, il a refusé, juste pour dire qu'il a refusé de participer à ce podcast, qui disait qu'il n'avait rien à dire de bien sur le jeu.
À l'inverse, fais-moi démarrer la partie en me disant, comme tu viens de dire Romaric, l'objectif c'est d'arriver à un espèce de dilemme sur exactement la façon dont tu l'as présenté. Et on le fera, il n'y a pas de souci. Je pense que le jeu ne l'empêche pas. Mais on le fera avec notre expérience aussi de joueur, notre aptitude à faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais le melon qu'on a pris, quoi. Enfin, que j'ai pris. Pardon. Mais du coup, le jeu ne l'oriente pas vers ça. Voilà, il y a du coup ce petit hiatus-là. Quoi.
Vivien, puis Adrien.
Ouais, je vais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, effectivement, parce que c'est vrai qu'on tourne pas mal en rond sur les trucs. Voilà, on n'arrête pas. Non, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles le final n'est pas un grand moment d'émotion incroyable, j'imagine que c'est possible. Quelqu'un qui. Enfin, l'immersion, ça vient aussi des joueurs et des joueuses. Bien sûr. Et donc, peut-être que moi, j'en serais pas capable, a priori. Là-dessus, clairement, c'est qu'en fait, on raconte une relation de façon complètement déstructurée, à base de questions, etc. Il n'y a pas une progression dramatique. Or, théoriquement, en fiction, cinéma, etc., normalement, l'émotion, ça se construit.
Très bien. Ouais.
Au fur et à mesure, avec un certain rythme, un souffle, etc. Et ce jeu-là ne permet pas ça, a priori. Le souffle est trop, dépend de trop de facteurs, etc. On ne raconte pas l'histoire dans l'ordre. Enfin, il y a trop d'éléments qui vont à l'opposé de cette idée de progression.
Juste idée à chaud, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit qu'il y ait une gradation des questions, du coup ? Le problème, c'est qu'elles sont toutes au même niveau, elles sont mélangées en vrac.
Autre jeu, à mon avis, si on voulait changer ça, ce serait un tout autre jeu, quoi.
Oui, le défaut, j'y pense. Enfin, j'ai parlé de théâtre d'improvisation tout à l'heure. C'était plutôt d'improvisation en général. C'est vrai que
de l'improvisation.
Oui, j'ai amené le mot théâtre, enfin, en citant, mais c'est vrai que c'était maladroit de ma part. Je pense aussi que ce qui pêche un peu, là, on le dit tous autour de la table, c'est qu'on nous force à l'aimer dès le départ, cette reine. Et en fait, je me dis qu'en improvisation, tu ne peux pas dire « Vous aimez quelqu'un, dites-moi pourquoi vous l'aimez. » Enfin, même en impro, ça reste compliqué.
Si, mais tu me laisses le temps de le dire, en fait, pourquoi.
Là, il n'y avait pas de temps.
Au début, il nous manque ce socle commun, que chacun dise pourquoi il l'aime.
Voilà. C'est-à-dire que, en fait, on aime quelqu'un de façon inconditionnelle.
Il y a des questions pour ça, en plus. Toutes les questions ne sont pas « la reine vous déteste ». Il y a plein de questions aussi qui disent « la reine vous aime, vous voyez mieux que les autres ». Enfin, et ça aussi, ça construit la... Ouais.
Et il y a un moment où si la question que tu tires, elle vient péter ce que tu avais construit juste avant parce que c'est juste la reine vous en veut parce que tu as l'air d'un con, quoi.
Juste, Xavier, tu voulais intervenir ?
On fait toujours d'un Graal l'immersion dans le personnage, et là effectivement le personnage il est construit au cours de la partie, tu sais pas sur quel pied tu danses au départ, donc moi je pense qu'il faut pas venir chercher une immersion dans le personnage dans ce jeu là.
J'ai aucun problème de ne pas avoir d'immersion dans le personnage, à ce moment là je veux être en position d'auteur, à minima, pour pouvoir projeter quelque chose dans le personnage, pas m'impliquer personnellement, mais en tout cas avoir une histoire cool, tu vois, et aller vers du drama, aller vers mon personnage aura un choix à faire ou pousser les autres à vers des choix. Mais le jeu.
Moi, je suis en position d'auteur au travers des questions que je renvoie aux autres joueurs lorsque c'est leur tour de parole.
Bien sûr, mais il n'empêche que dans aucune des deux parties, on a vraiment eu cette sensation à la fin de que le choix était cornélien ou que le choix était. Enfin, le choix à la fin, c'était bon, je la défends, je la défends pas. J'étais pas impliqué, quoi.
Mais moi, dès le départ, quand je crée mon personnage, au bout de 2-3 questions, je sais si je la défendrai ou pas à la fin. Et je continue à répondre aux questions suivantes dans cette logique-là.
J'avais une question, au-delà des...
Broussailles.
Au-delà des blagues grasses qu'on a faites, mais qui... Est-ce qu'à un moment... j'ai pas fait attention dans la partie, mais... Est-ce qu'à un moment... Dans ce que vous disiez ou dans les questions que vous posez, vous êtes sorti de la fiction. J'ai pas l'impression, enfin moi, c'est juste une impression, j'ai pas l'impression que tout ce qu'on a dit autour de la table sortait de la fiction. J'ai l'impression que pendant toute la partie, tout ce qu'on disait, c'était nos personnages dans la fiction qui le disaient. Mais, enfin, c'est une impression, hein. C'est pour ça que je voulais vous poser la question.
Non, moi non, clairement pas.
D'accord, tourner autour de la fiction. On tournait autour de la fiction, il y avait quand même des blagues qui étaient un peu hors de la fiction. Enfin,
tu dis ça parce qu'on a beaucoup parlé tous les deux et qu'on faisait comme si on était deux harpies de la cour.
En fait, moi, on a parlé à trois, en fait. Moi, j'ai parlé beaucoup avec toi, mais vous étiez en face aussi, donc c'était plus pratique, je vous voyais. Ouais. Ah, c'est difficile de parler à la personne à côté. En fait, moi, j'ai beaucoup. Alors, je ne dis pas que j'ai beaucoup aimé la partie, mais j'ai beaucoup aimé la relation que j'ai eue pendant la partie avec Jérôme et Flavie. Et en fait, ça s'est fait con de le dire comme ça, mais il y avait quelque chose de beau. J'aimais bien cette...
Se passait à côté de la partie.
Ça faisait vraiment comme si on était à la cour et qu'on bitchait, quoi.
Oui, mais c'était
drôle.
Il y avait une certaine
drôle, très
complicité
chouette.
Que j'ai
c'était
beaucoup aimé avec. Et j'ai jamais joué avec Jérôme. J'ai jamais joué avec Flavie. Et... j'aimais bien cette complicité qui est née juste dans la partie. Alors après, vous étiez placé un peu par rapport à moi en triangle, donc c'était un peu pratique de vous répondre et de vous apostropher. Donc est-ce que c'est... Mais c'est ce que j'ai bien aimé dans la partie. Alors après, ça, c'est pas propre à ce jeu-là. Je pense que ça peut se produire avec n'importe quel jeu, hein, mais...
C'est intéressant de le souligner parce que
c'est pour ça que quand je parlais, alors
l'immersion aurait pu générer une réaction du genre tout le monde aurait se serait levé. Oh ben moi aussi. Et du coup, on aurait pu voir quelle mécanique créer.
Je suis parti un moment parce que les questions m'y poussaient en mode pétasse. Et donc, la question était tellement tordue que je pouvais pas. Enfin, soit je restais en mode sérieuse, mais c'était juste impossible. Soit je partais en mode pétasse et je me suis dit bon ben vu la question.
C'est peut-être lié aussi au fait que vous étiez nombreux et que du coup.
Oui, non, mais alors après, oui, voilà, ça peut se produire.
Moi aussi, j'ai bien aimé ce moment d'intimité.
Mais c'est pour ça que. Alors, je parlais, le terme est vague aussi, d'immersion, mais en fait, j'étais dedans ce petit jeu, qui a duré entre nous, en fait. J'ai l'impression presque entre nous trois, parce que c'est vrai qu'il y en était tellement qu'on s'ignorait un peu les uns les autres. Mais j'ai bien aimé ce moment à trois qu'on partageait après.
Emmanuel ?
Moi, mes questions étaient pure méta, c'est-à-dire que il y avait, quand j'avais une idée de question qui pouvait permettre potentiellement aux joueurs d'en face de s'éclater 2-3 minutes de plus à raconter 2-3 trucs de plus, elles étaient vraiment là pour ça, mes questions. C'était vraiment pas pour consolider une histoire. Et là, pour le coup, on peut le rapprocher du théâtre d'impro où tu deviens une espèce d'allié où juste tu donnes, t'essayes de donner des petits trucs pour que l'autre rebondisse et
ça.
Pas plus. Quoi.
J'ai beaucoup vécu comme ça aussi. Mes questions, c'était souvent des « mais il paraît que… » qui n'était pas juste une question, qui était venir glisser des éléments dans ta fiction pour enrichir parce qu'il ne se passait pas grand-chose sinon. Quoi.
Et tu laissais la porte ouverte autant pour le nier que pour le renforcer. Ouais. Et du coup, voilà, c'était juste un petit élément.
Adrien,
tu
nous as teasé une carte zéro tout à l'heure.
Il manquerait une carte zéro qui serait. Était, je sais plus,
ah, il manquerait, d'accord. Je croyais que tu disais.
Ce dont on parlait tout à l'heure, qui est. Je ne sais même plus de quoi on parlait.
La carte zéro, ce serait de. Le contexte ou le contrat social. Est-ce qu'on est dans une tragédie
ça c'était au tout début, mais plus récemment, on avait parlé.
Excuse-moi. Je pensais que tu faisais référence à une carte qui existait vraiment. On a tout dit sur ce jeu, je pense.
Je pense qu'on a beaucoup parlé de ce qu'il méritait. C'est déjà une belle foire d'empoigne. Merci à tous et à toutes d'avoir participé.
Merci, bye bye.
Des bisous.
À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Et surtout, jouez bien.